de cette matinée avec des tendances 2021 de progression par rapport à 2019 qui pourraient atteindre deux chiffres, des tendances à deux chiffres. Donc tout ça, ce sont des éléments très importants. Et puis je n'oublie pas non plus, évidemment, la signature de ce cadre, de cette quadripartite, ils sont quatre, pour l'avenir du fret ferroviaire entre l'État, SNCF Réseau, 4F et les chargeurs. Donc beaucoup de choses en toile de fond pour ce matin et donc un programme chargé. Nous allons avoir deux entretiens et deux tables rondes donc d'ici midi et demi et la conclusion par le président Ivan Stepinski. Donc un programme chargé et Aurélien, je te propose de lancer un peu les opérations. Alors on a vu rapidement que sur ces quelques images, on a vu du fer, on a vu du maritime, et on a vu un peu de, j'ai cru voir un peu de fluvial. Et je vous propose de commencer justement par le fluvial. Et je vous demande d'accueillir Thierry Guimbaud, directeur général de Voies Navigables de France. Merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui. On va s'asseoir quelques instants pour évoquer ce transport combiné fluvial. Qui manifestement, on a un peu échangé hier, a aussi des bonnes tendances en 2021. Je disais qu'il y avait sur le fer des progressions qui semblaient importantes. Est-ce que c'est la même chose sur le fluvial pour commencer ?
Je vais en dire un mot, oui. C'est un point très positif. Il faut être prudent sur les chiffres, mais c'est un point positif. Je voulais juste dire que l'année très particulière, le 18 mois très particulier que nous avons vécu, il y a eu de très grosses avancées dans le secteur ferroviaire, c'est exact, on y a un tout petit peu contribué aussi. Moi, je parle beaucoup des modes lourds plutôt que du mode ferroviaire ou du mode fluvial. J'aime bien qu'on parle des deux de manière articulée et en même temps, si je puis employer ce terme un peu trop connu maintenant. Et dans le fluvial, effectivement, il se trouve que cette année 2021, préparée en 2020, on a pour la première fois, avec l'État, contractualisé une politique et une ambition fluviale qui n'existait pas auparavant de manière aussi formalisée. Voilà. Je vais en dire un mot. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il me semble que nous sommes, alors vous allez dire que je suis payé pour le dire, ce qui est exact, mais au fond, j'y crois très sincèrement, et je vois des choses qui bougent beaucoup. On est bien, depuis maintenant quelques années, et le Covid ne l'a pas empêché, ne l'a pas arrêté, on est devant, mais ça prendra du temps, bien évidemment, devant, je pense, ce que j'appelle, d'ailleurs c'est comme ça que se sous-titre le COP, hein, une nouvelle ambition pour le fluvial. On a longtemps vécu ce secteur comme un secteur un peu marginal. D'ailleurs je conteste un peu le côté marginal, qui à mon avis est une mauvaise approche du sujet, on peut en reparler, tout en restant à sa place bien sûr. Et en tout cas il y a une vraie ambition, il y a un vrai moment, il y a un vrai élan que je sens personnellement apparaître depuis que je suis dans cet bel établissement, et qui est en train de se concrétiser progressivement. C'est vrai que l'année 2020 a été une année d'arrêt, mais pour tout le monde, et quand même un arrêt relativement modéré par rapport à d'autres. Donc une forte résilience, comme on dit. Voilà. Alors sur les trafics, effectivement, quelques mots. D'abord, au global du fluvial, on a enregistré avant le Covid une croissance de 10%, ce qui était le mode qui a eu la croissance la plus importante en 2019, donc avant le Covid. On a, pendant la période forte du Covid 2020, bien sûr, perdu cette dynamique, ça va de soi, mais pas tant que ça, je crois qu'on a dû faire moins 11 ou moins 12, je crois. Donc on est revenu l'année qui précédait, si je puis dire, voilà. Et là, on est en train, globalement, beaucoup tiré, c'est vrai, par le BTP, beaucoup tiré, c'est vrai, par les céréales. On est en train de revenir à fin 2021, forte croissance actuellement, et on devrait probablement être pas loin de rattraper l'année 2020 en 2021, donc en une seule année. Donc ça traduit bien cette dynamique. Sur le conteneur lui-même, mais donc plus centré sur nos de questions qui nous intéressent aujourd'hui. On n'a évidemment pas la même dynamique complètement pour une raison assez simple, c'est que tout ça, le conteneur dépend beaucoup du maritime, dépend beaucoup des ports maritimes, et on sait les difficultés qu'il y a eu dans le domaine des ports, à la fois pour des raisons, notamment en 2020, de mouvements sociaux importants, on le sait, puis de désorganisation. Au-delà du Covid, il y a une espèce de désorganisation du transport maritime bien connue, a donc fait que l'année 2020 a été, elle, en repli à structure constante, à peu près moins 11, moins 12%. Mais, au global, augmentation quand même, plus 1%, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouveaux flux, notamment dans les Hauts-de-France, qui ont été créés. Et ça, c'est vraiment un choix qui me paraît essentiel de chargeur, de prendre le fluvial comme un des modes, entre Béthune et Saintes notamment, dans son cycle industriel de production et de distribution. Et ça a fait qu'au total, nonobstant les moins 11 en base, enfin en périmètre constant, on était à plus 1, même dans cette période-là. Bon, là, la reprise, tu l'as dit, elle est là, elle est devant nous. On la sent très présente, notamment au premier semestre. Les indications du deuxième ne sont pas mauvaises non plus. Donc je pense qu'on peut probablement là aussi espérer un retour à la situation hantée assez rapidement. Voilà sur le trafic.
Et c'est une augmentation des trafics avec les clients habituels, ou est-ce qu'il y a aussi, tu notes aussi l'arrivée de nouveaux acteurs?
Alors c'est presque, nouveaux chargeurs. C'est presque ça, le reste aussi bien sûr, mais qui me rend plutôt optimiste et dynamique en tout cas dans l'approche, au-delà du volontarisme qui me caractérise, mais aussi un dynamisme qui me paraît objectivement justifié, si je puis dire, c'est qu'on voit de plus en plus. L'exemple du chargeur Roquette, pour ne pas le désigner, dans le Nord, on le voit un peu partout. C'est-à-dire qu'on voit bien sûr, tout le monde a cité sur la scène l'arrivée de Ikea avec un immense entrepôt. On était l'autre jour avec Ferrero sur une autre activité, etc., etc. Et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que depuis que je suis à VNF, c'est la première fois en 4 ans, ces 2 dernières années, que je vois des chargeurs d'influence qui se posent la question. Je ne dis pas qu'ils disent oui tout le temps, hein. C'est facile, c'est pas toujours facile.
Au moins, ils regardent.
Mais voilà, ils regardent. Je pense qu'il y a 4 ans, ils ne regardaient pas, vraiment. Donc, ils commencent à regarder, ils regardent même beaucoup. Et ça, pour moi, c'est l'indicateur qui me paraît le plus important sur le moyen long terme. Voilà.
Alors, du point de vue des facteurs de crédibilisation, d'encouragement pour ces nouveaux chargeurs, ou pour l'ensemble d'ailleurs des partenaires intéressés, il y a la visibilité. Et tu as conclu, tu le rappelais tout à l'heure rapidement, un contrat. Alors, il n'existe pas encore pour l'instant dans le ferroviaire avec ton homologue SNCF Réseau, mais il existe dans le fluvial. Est-ce que c'est important, la conclusion de ce contrat? Et pourquoi c'est important pour l'ensemble du secteur et pour donner de la visibilité?
Ben, c'est extrêmement important. Vous allez me dire, c'est un bout de papier. Oui et non, quand même. Hein. Ce n'est pas qu'un bout de papier. D'abord, c'est extrêmement important parce que ça donne des trajectoires. Tous les sujets. Alors bien sûr, on va dépendre, comme toujours, on sait bien que sur 10 ans, les trajectoires, elles peuvent changer, c'est une évidence. Mais c'est quand même un cap extrêmement important. Et surtout, ça témoigne, parce que tout ça a été arbitré, vu à Matignon, etc. Donc tout ça témoigne de cette ambition que j'évoquais, l'inscrit dans le dur, entre guillemets, en tout cas dans un document stratégique, complètement porté par l'État, signé, je l'ai signé maintenant il y a moins d'un an avec le ministre des Transports et le ministre de l'Économie. Et donc ça comporte un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes. Par exemple, le fait d'abord effectivement que pour la première fois, ça va peut-être vous faire, non pas sourire, mais bondir aussi, c'est la première fois que VNF a une trajectoire d'investissement à plusieurs années. Voilà. Qu'elle soit complètement respectée au fil du temps ou pas, j'allais presque dire, c'est pas que c'est pas important, mais cette trajectoire, elle est capitale pour un gestionnaire d'infrastructure qui sache sur le moyen et long terme, 5-10 ans, ce qu'il doit faire.
Donc, pour ses propres investissements, mais aussi pour ses sous-traitants, le tissu industriel.
Je vais y venir, bien sûr. Et le outre la prévisibilité que ça donne, qui est absolument essentielle pour un gestionnaire d'infrastructure, et évidemment, et pour le business, le volume même des investissements, par exemple, n'est pas du tout le même. On a, dans notre COP, on va doubler le volume d'investissement constaté les 4-5 dernières années, avant. C'est-à-dire qu'on pense en gros, et c'est probablement un chiffre encore insuffisant, je ne m'en satisfais pas, mais tout de même, on va passer de 150 millions à peu près à 300 millions d'euros d'investissement par an sur le réseau, en régénération. Et ça, c'est très bon pour les entreprises, parce que ça veut dire notre réseau est très capacitaire sur le fluvial, en fait. C'est le réseau qui a le plus de réserves aujourd'hui. Il est d'ailleurs fiable aujourd'hui. On a un taux de fiabilité qui est extrêmement important. Mais, effectivement, la régénération insuffisante ces dernières années, ces dernières décennies, fait peser une menace, tout de même. Il faut bien être conscient. Et je comprends complètement un businessman qui se dit, bon, ok, j'y vais, mais dans 5 à 10 ans, quoi. Voilà. Et donc, le programme de régénération qui est important, notamment sur la Seine, par exemple, qui est le fleuve sur lequel il y a plus de régénération à faire, est donc absolument essentiel. Mais il y a aussi du développement. On parle beaucoup du canal Seine-Nord-Europe. Nous sommes évidemment un acteur important de ce projet, ça va de soi. On est membre de la société de projet, on est complètement à bord. Mais il y a des investissements qui sont, et non négligeables, qui sont VNF en accompagnement. Parce qu'on ne va pas faire un canal, comme dit le président Xavier Bertrand, pour déboucher sur un canal qui n'a pas la bonne cote, si je puis dire. Et ça, c'est plus d'un milliard d'euros qui s'ajoute aux 5 milliards du canal Seine-Nord. Donc ça crée, ne serait-ce qu'en termes de business aussi, que tu l'évoquais, je pense, du BTP, d'ingénierie, ça crée un appel activité qui n'a jamais été vu jusqu'à présent dans le fluvial depuis bien longtemps. Ce qui crée des difficultés, bien sûr, parce que d'un seul coup, il y a des projets un peu partout, quoi, en clair. Voilà, donc ça, c'est un élément important du COP.
Pas déjà de la surchauffe, quand même, si, un peu.
Il peut, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Puis en plus, on connaît les activités économiques avec des tensions importantes sur les livraisons de matériel. Donc oui, on commence déjà à être nous-mêmes en grosse surchauffe, ce qui est quelque chose qu'on avait assez peu connu dans les dernières décennies. Voilà. Donc le COP, il donne ça. Il donne aussi une impulsion sur les niveaux de service, parce que je ne voudrais pas qu'on voit VNF que comme un gestionnaire d'infra. C'en est un à la base, mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et donc on est un acteur, on est l'acteur du fluvial de référence, et donc un acteur qui s'intéresse beaucoup aux questions de services également. Donc on est en train de développer beaucoup de sujets, beaucoup de projets tenant au service. Ça aussi, l'objectif en est donné dans le contrat. Et c'est un peu tous azimuts. Donc vous connaissez aussi bien que moi beaucoup de sujets qui sont les systèmes d'information fluviale, qui sont le ouest du fluvial, j'appelle ça comme ça, qui sont la mise en place d'un projet qui s'appelle le projet CEDRE, qui sera en place en proto l'année prochaine et peut-être en début 2022 définitivement, donc un système de transfert d'informations automatiques dématérialisées pour alléger le plus possible toutes les formalités de bien normal, l'aide de transport et autres, et pour aussi éventuellement optimiser notamment les vides. Ça, c'est donc des sujets qui touchent au rôle de VNF sur au-delà de l'infra sur le service. Et c'est le capital de le faire. Donc il y a beaucoup de recherches, IoT, blockchain qui va probablement être utilisé dans le cadre du dispositif que j'évoque sur l'ensemble du système. Et puis on a beaucoup d'autres rôles aussi qui sont eux aussi renforcés, sur lesquels beaucoup d'acteurs viennent. Typiquement, nos dispositifs de financement, que sont notamment je pense au PAMI qui sert à aider la modernisation de la flotte, qui en a bien besoin, et à son verdissement, notamment, qui est un sujet stratégique. Parce que le verre est bon en verdissement par rapport à la tonne transportée, mais s'il ne se bougeait pas, il serait vite dépassé. Voilà. Donc il est important de ne pas se faire dépasser. On a un avantage stratégique fondamental, le deuxième étant qu'on rentre dans les villes de manière très fine et de manière acceptable, ce qui n'est pas le cas des autres modes. Et donc, il ne faut pas qu'on perde ces avantages-là. Et typiquement, des dispositifs comme ce dispositif qui s'appelle le PAMI, peu importe les termes, eh bien, j'ai signé d'ailleurs au River Dating de Lyon la semaine dernière le fait que la CNR nous rejoint dans ce dispositif, apporte des financements. C'est nous qui le gérons. Il y a des régions qui sont maintenant dans le dispositif. Il y a l'ADEME qui est dans le dispositif. Il y en a d'autres qui toquent aux portes pour dire « Je veux rentrer dans le dispositif, vous apportez mes financements et VNF, vous, soyez le guichet unique ». Qui n'est pas 50 dispositifs, 50 maîtres d'ouvrage. Donc soyez le guichet unique. On va également réfléchir et développer en début d'année prochaine probablement un centre de service, justement pour travailler pour le compte des entreprises dans parfois ce marécage des systèmes d'aide, etc. Et puis, on est en train de travailler, et je l'évoquais tout à l'heure avec Eloi qui est là, avec la DGEC sur un appel à projet qui a été lancé qui a été lancé avant-hier, je crois, c'est bien ça, sur les C2E, nouveau projet, C2E. On a quelques idées. Et cet appel à projet, donc, qui est national, qui est tout secteur, il a trois sujets, dont un, qui est le transfert fluvial et ferroviaire. Transfert modal.
Alors, justement, pour terminer, deux questions. La première sur ce ferroviaire fluvial. On a beaucoup parlé du bout de papier signé avec SNCF Réseau. Pour les collègues qui sont ici, quel est l'intérêt d'un accord comme celui-là entre SNCF Réseau et VNF? Qu'est-ce que ça peut donner concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est juste un bout de papier, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ou est-ce que ça a des perspectives plus intéressantes pour l'ensemble de la profession?
Comme tout papier, ça restera un papier si on n'en fait rien, si on n'a pas de volonté derrière d'y aller. C'est juste pas l'intention de SNCF Réseau et la nôtre. On a décliné, par exemple, par territoire. Il y a donc des conventions maintenant par territoire qui sont signées au niveau local. Ça consiste tout simplement à développer, et on va refaire un point en copile prochainement, et par exemple sur le projet C2E que j'appelais tout à l'heure, là, nouveau, j'étais avec le DGC, avec SNCF Réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas le fluvial qui va discuter d'un truc et le ferroviaire qui va discuter d'un truc en bonne approche modale classique, hein, voilà, comme plan fret, qu'on appelle plan fret et qui n'est que ferroviaire, ça me gêne un tout petit peu. Voilà. Donc arrêtons les trucs modaux, s'il vous plaît. Chacun à sa place, ça va de soi. Mais arrêtons les trucs modaux. Ce n'est pas la bonne approche. Donc là, on y va ensemble. Et typiquement, la patronne des SNCF Réseau était avec moi pour aller plaider le dossier à la DGEC. Je pense que si on n'avait pas eu cette alliance, on ne l'aurait pas abordé comme ça. Et incontestablement, ça donne une force de frappe très supérieure. Voilà. Et puis beaucoup d'autres choses. Par exemple, on veut faire des systèmes de formation, de e-learning et autres sur le fluvial, par exemple, et donc de les mixer avec ceux du ferroviaire. De chercher ensemble, de mieux coordonner, par exemple, tout bêtement, c'est plutôt bête, mais c'est pas si mal, de mieux coordonner, nous, nos périodes de travaux de chômage et eux, leurs périodes de travaux, par exemple. Ça ne marchera pas toujours. Voire de s'interroger, de basculer, par exemple, sur le couloir rhénan, qu'on connaît beaucoup moins en France, qu'on gère pourtant, et qui est beaucoup, beaucoup pratiqué, là, qui est du vrai transport fluvial de très haut niveau. Eh bien, comment gère-t-on, quand il n'y a pas assez d'eau, la bascule de l'un vers l'autre? Pourquoi un étiage? Il y en a maintenant, malheureusement, sur le Rhin. Donc, on diminue le nombre de conteneurs, évidemment, il y a moins d'enfoncement. Pourquoi les conteneurs passeraient-ils systématiquement sur la route? Dans certains cas, oui, et c'est normal. Mais dans d'autres cas, peut-être on peut s'interroger sur le ferroviaire adjacent. Et inversement, on a eu les deux problèmes cette année. Et on n'a pas assez réfléchi, justement, à voir s'il était possible de proposer des choses. Et puis, beaucoup de projets, typiquement, on sait très bien, je donne des exemples, mais sur Rhône-Saône, que le fait de rejoindre la banane bleue par Rhône-Saône, par le Rhin, c'est pas pour demain la veille, hein. Le projet a un peu souffert quand même, et pour l'instant on est sur Seine Europe et ça suffira bien pour les 10 ans qui viennent en termes de projets nouveaux. Mais pour autant, on a des dispositifs, on a un fleuve, deux fleuves, Rhône et Saône, hautement capacitifs, scandaleusement sous-utilisés, osons le dire, et avec des possibilités, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, du côté de Pagny par exemple, d'un transfert très facile. Voilà. Et ben pourquoi pas imaginer et porter. Alors, bien sûr, c'est le travail, c'est votre travail, c'est votre travail des transporteurs, des logisticiens. Mais notre idée, c'est que, comme tous ces sujets-là, il faut chasser en meute, c'est ce que je dis, hein. Et donc, il faut que les gestionnaires d'infrastructures fassent aussi leur approche. Nous, on a la possibilité, la chance d'être pas attenu à un business et à une concurrence directe. Donc le champ de la coopétition, on est vraiment un acteur, un pivot de la coopétition possible. C'est ce genre de choses qu'on veut faire.
Merci. Dernière chose, on va aborder dans une minute la première table ronde, notamment sur les atouts écologiques du transport combiné. Le fluvial, ça semble évident, hein, sa pertinence environnementale et écologique, mais souvent les chiffres que l'on manipule, les chiffres consolidés sont modestes, hein, sur les parts de marché. Pourtant, une tonne, par exemple, transportée sur un fleuve à Paris ou dans une grande métropole, ça a quand même finalement beaucoup plus de valeur qu'une tonne transportée sur un territoire lambda. Comment on fait pour mieux valoriser ce bénéfice écologique du point de vue fluvial?
Un truc fondamental, c'est qu'il faut arrêter de penser, arrêter de réfléchir par modal global, national, où on mélange tout. Des choux, des carottes, on compare le trafic qui se fait en Auvergne, celui qui se... Et il n'y a pas beaucoup de fleuves en Auvergne navigables. Voilà. Et voyez donc ce que ça veut dire immédiatement. C'est-à-dire que le taux moyen que vous arrivez au national n'a juste pratiquement aucun sens. Voilà. Il faut regarder là dans les zones pertinentes. Dans les zones pertinentes, on n'est pas à ces taux-là. On a des taux beaucoup plus importants à deux chiffres. Donc c'est ça. Donc il faut déjà commencer intellectuellement à bien penser ça. Après, effectivement, il y a des zones. Il ne s'agit pas de dire on va arriver, on va raser gratis, il va y avoir du fluvial partout. Zéro chance. Par contre, il y a des zones de pertinence très très fortes des uns et des autres. Alors effectivement, sur le plan environnemental, je disais qu'il y a un avantage fort qui est dû à la capacité de massification, ni plus ni moins. Et en gros, on sait que les convois les plus importants, ça correspond à peu près à 4 trains de fret sur un convoi important en fluvial. C'est pas toujours le cas, loin s'en faut, mais ça dit bien quand même quelque chose d'assez important. Et puis, mais il faut moderniser tout ça, parce que la motorisation reste une motorisation carbone, quand même, sur laquelle on travaille beaucoup. Je n'ai pas détaillé, mais on a tout un projet qu'on appelle Vers le fluvial, VERT, où on agite le secteur pour créer des solutions nouvelles, hydrogène qui va arriver bientôt, et autres systèmes. Mais le point important, c'est que, d'abord, il ne faut pas considérer la pollution globale, me semble-t-il. Tout aspect.
Toute borne.
Exactement. Pas que le CO2, pas que l'inox, les embouteillages, c'est une pollution. Les particules fines dû au frottement. C'est une énorme pollution.
Ils ne disparaîtront pas avec...
Et dans les zones denses, ça devient un problème majeur. Ça deviendra le problème majeur des États-Unis. Voilà. Ça frotte un tout petit peu moins sur l'eau. Voilà ce que je peux vous dire.
Ça frotte même pas beaucoup.
Pas beaucoup. Voilà. Ça frotte ailleurs par moment, mais voilà. Donc, il y a des zones de pertinence. Et je pense que dans le fluvial, on est en train de redécouvrir, quand je dis on, c'est notamment les élus aussi, des zones de pertinence qui donc... mais pas seules. Parce que seul, il y a zéro chance. Comme disait Anne-Marie Drac, j'ai vu dans une petite réponse qu'elle a fait, un petit bout de papier que j'ai fait sur LinkedIn, elle disait si les trains et les barges arrivaient dans les usines, ça se saurait. Elle a tout à fait raison. Donc la zone de pertinence, c'est donc la multimodalité. J'aime pas trop ce terme parce qu'il a tellement été employé, galvaudé, qu'il a perdu un peu de sens. Mais si les opérateurs le font vivre, là, il va reprendre du sens.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier Thierry Guimbaud pour ce quart d'heure pédagogique sur le fluvial. Merci de ces quelques explications sur la trajectoire. Aurélien, je te laisse lancer la table ronde suivante. Complémentarité des modes et atouts écologiques. Donc table ronde avec François De Ryck, Benoît Thirion et Philippe Virtel, que je sollicite pour venir me rejoindre sur scène. Et nous aurons aussi l'intervention dans quelques instants par vidéo de Yann Tréméac. Bonjour messieurs. Je vous rassure, tout à l'heure, ce ne sera pas 100% masculin toute la matinée, mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est trois messieurs. Merci d'être avec nous ce matin pour aborder cet élément essentiel de l'attractivité du mode combiné, c'est-à-dire ses atouts écologiques et puis sa capacité d'insertion dans l'ensemble des modes, la multimodalité qu'évoquait Thierry Guimbaud il y a quelques instants. On va commencer avec vous, François De Ryck, vous êtes manager... Europe de Roquette. La question est bien simple, on l'évoquait tout à l'heure juste avant cette table ronde. Vous, quelle est votre stratégie, quelle est votre communication en matière de transfert modal, en matière de valorisation des atouts écologiques du transport combiné? Comment vous faites, vous, pour amener votre entreprise à encore davantage utiliser ces atouts écologiques?
Bonjour. Alors chez Roquette, c'est une volonté qui est déjà ancienne et sur laquelle nous souhaitons encore accélérer dans les années qui viennent. Alors on a différents types de transports effectivement et de produits à transporter. Donc ça nous permet sur ce panel de flux, à chaque fois qu'il est possible d'effectuer du report modal. Monsieur Guimbaud parlait tout à l'heure du flux que nous avons entre notre usine des Hauts-de-France, l'Étrême, et notre zone de stockage à Lille par exemple, qu'on a passé sur du mode fluvial, route fluviale. sur nos flux intercompagnies entre les usines, comme nos usines sont en branche FR, parce que 90% de nos réceptions de matières premières se font en train. On reçoit 5 trains par jour dans l'usine, par exemple, de l'Etrem. On utilise également ces embranchements ferroviaires tant que possible pour nos livraisons inter-usines. Et ensuite, sur les flux clients, on favorise également le report modal au maximum, que ce soit du rail route, éventuellement aussi des livraisons qu'on fait en barge au départ de notre usine alsacienne sur nos clients au bord du Rhin, par exemple. Donc c'est une volonté qui est ancienne, c'est une volonté sur laquelle on souhaite accélérer fortement dans les années qui viennent. Donc on communique à travers nos outils de communication propres à Rocket, à travers les communications institutionnelles de Rocket. On communique également avec, par exemple, l'engagement que nous venons de signer en septembre, Fret 21, sur lequel on s'engage, nous, Rocket, sur l'ensemble de notre scope de transport, à réduire nos gaz à effet de serre, nos émissions de 10% sur les 3 ans qui viennent. Donc c'est un engagement assez fort, qui sera mesuré, piloté, et qui est d'ailleurs piloté par la direction générale du groupe. Donc c'est une volonté qui se traduit aussi dans nos communications avec notre réseau de transporteurs, dans le sens où, à travers nos appels d'offres, les discussions qu'on peut avoir avec eux, on étudie avec eux systématiquement les possibilités de report modal qui peuvent être faites sur les flux clients ou les flux intercompagnies, comme je disais précédemment. Donc c'est vraiment une communication qu'on essaye d'inculquer sur l'ensemble de nos prestataires, de nous solliciter et de nous proposer des solutions alternatives quand c'est possible, techniquement, sur des axes évidemment où c'est réalisable. Donc aujourd'hui chez Rocket, on a, comme je disais, 90% de nos frets amont qui est fait en ferroviaire déjà. Sur nos intercompagnies, on est environ à 20% du volume qui est fait en multimodal. Et sur nos livraisons clients en Europe, on est environ à 10% de nos livraisons qui sont faites en intermodal, effectivement sur des scopes géographiques type l'Italie ou les pays de l'Est.
Ce que vous nous dites, c'est que systématiquement, dans vos projets, vous posez la question de cette multimodalité.
Systématiquement. Dans tout projet, quels que soient les projets de transport, on va systématiquement étudier les alternatives multimodales qui sont potentiellement réalisables. Techniquement, en termes de délai, en termes de compatibilité des terminaux par rapport aux livraisons clients, des choses comme ça, par exemple. Mais c'est systématiquement étudié. Et c'est quelque chose que je promeus, moi, à mon niveau, aussi systématiquement, dans toutes les réflexions qu'on a sur notre organisation de transport.
Y compris parce que vous considérez que pour l'image de votre entreprise, que pour sa réputation, que pour son attractivité, c'est un élément décisif ?
C'est un élément absolument décisif pour plusieurs raisons. D'une part, c'est diversification du plan de transport qui permet de aussi, quelque part, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'utiliser plusieurs modes, chacun, et les différents modes étant complémentaires, donc chacun avec leurs avantages et inconvénients, ce qui augmente la résilience de notre plan de transport, premièrement. Deuxièmement, ça nous permet effectivement d'améliorer notre image, mais aussi concrètement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est essentiel à ce niveau-là. Et une tendance qui est quand même nouvelle, que j'ai constatée, moi ça fait peu de temps que je suis chez Rocket, ça fait 3 ans, et je constate depuis environ 1 an une nouvelle tendance qui est chez nos clients, donc au niveau des cellules achats de nos clients, une demande également à ce que l'on communique, nous, sur ce que nous mettons en place chez Rocket en termes de développement durable. Donc pour nous, ce qui nous concerne ici sur la partie transport, mais en fait sur l'ensemble du scope Rocket, la production, etc. Et des volontés d'intégrer la composante développement durable dans leur stratégie de sourcing. C'est-à-dire qu'ils s'orientent vers du sourcing vert, on va dire, quelque part. Donc c'est aussi un avantage, on va dire, compétitif par rapport à nos concurrents si on développe ces solutions intermodales.
On l'abordera dans quelques instants avec Benoît Thirion. C'est l'importance de la chaîne globale, que chacun s'inscrive dans une dynamique vertueuse de ce point de vue-là et que tout le monde a intérêt à valoriser au mieux la modification de ces process. C'est un peu ça que vous nous dites.
C'est exactement ça. C'est vraiment, on sent que la boucle est en train de se boucler, c'est-à-dire que des clients, les fournisseurs et les prestataires rentrent dans un cercle vertueux qui nous permet de mettre en place l'accélération du développement du multimodal. Et nous, c'est un facteur aussi qu'on va inclure, qui est déjà inclus, comme je disais, dans nos appels d'offres et dans nos discussions avec nos prestataires transport. l'aspect de solution alternative, mais qu'on va inclure en ayant quelque part une introduction d'une préférence verte sur les fournisseurs. Donc les fournisseurs qui auront eux-mêmes des stratégies multimodales de réduction des gaz à effet de serre d'une manière ou d'une autre, comme par exemple du gaz ou des énergies alternatives, seront aussi, on va dire, quelque part favorisés dans le process d'appel d'offres.
Tous les processus de certification, etc.
Certification, sont
essentiels à vos yeux pour
écolabellisation, solutions alternatives. Donc, ce qu'on appelle nous les solutions de transport seront favorisées dans nos appels d'offres.
Merci. On reviendra après au cours de la discussion avec vous, Philippe Virtel. Vous êtes PDG du groupe MGE. On parlait du cercle vertueux. Qui dit cercle vertueux, il faut que tout le monde soit un peu aligné pour faire en sorte que le bénéfice final soit le maximum possible. De votre propre point de vue, peut-être nous rappeler un peu votre activité à MGE, qu'est-ce qui vous semble essentiel dans les mois et les années à venir à privilégier pour avancer encore plus vite sur cette question de la valorisation écologique du transport combiné?
Bonjour à tous. Un tout petit rappel rapide. MGE Group, on fait du transport depuis 60 ans et du transport combiné depuis 10 ans. Pourquoi on est venu au transport combiné? En 2005, j'ai fait un petit voyage d'études, un en Italie et puis un en Allemagne. Et là, j'ai découvert un système de transport dont j'ignorais tout et dont j'ai compris la nécessité et l'efficience. À partir de cette date, 2005, j'ai décidé d'engager ma société dans une conversion intellectuelle et technique qui lui permette d'aborder aussi vite que possible la capacité de faire du transport combiné. Donc, chose qu'on a démarré 5 ans après. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'utiliser les lignes existantes de transport combiné en Europe de l'Ouest pour fournir en gros 10% de notre production de transport. Et comme nous sommes transporteurs pour 40% de général cargo et 60% de vrac, notre stratégie consiste à être capable de transporter aussi bien par intermodalité rail-route que par route tous les types de marchandises dont nos clients nous confient le transport. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de décision à prendre, il n'y a plus de choix à faire. Il y a une nécessité d'aller vers le transport combiné. Je ne vais pas refaire l'historique de tout ce qui a pu amener certains transporteurs routiers à devenir des transporteurs intermodaux. On les connaît, les choix. Il y a eu les congestions, on a eu les projets de taxation en France ou en Europe, on a eu les hausses de gazole. Tout ça, c'est ce qui se disait il y a 10 ans ou 12 ans. On avait, à une époque, souvenons-nous, à l'époque où le 44 tonnes en France n'existait pas, on avait un delta de PTRA qui nous permettait d'aller compenser les écarts de charge utile. Au fil du temps, tous ces avantages ont disparu, se sont amenuisés. Mais très soudainement, depuis quelques temps, tous sont en train de revenir. On nous reparle de taxation. Le gazole vient de bondir de 30% en 8 mois. Enfin, c'est un truc qu'on n'a encore jamais vu. Les coûts sociaux de nos conducteurs, ils sont appelés, ne nous voilons pas la face, à augmenter d'environ 10% d'ici à début 2022. Tout est en train de se conjuguer pour qu'on passe au transport combiné. Et d'une certaine façon, je pense que nous, transporteurs, notre responsabilité, c'est d'être à l'initiative. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas à répondre à une sollicitation d'un chargeur. C'est à nous d'être proactifs et de trouver les bonnes solutions. Je vais prendre un exemple pratiqué récemment, une décision initiée il y a quelques jours au sein de mon entreprise. On pratique des flux de transport de produits chimiques dangereux, complexes, qui nécessitent l'utilisation de contenants qui soient complètement dédiés. Pour faire un flux qui va, par exemple, de Rotterdam à Lyon, est-ce qu'il est pertinent de continuer à le faire par la route? Je m'explique. Quand mon conducteur, dont le coût de revient est très grosse maille, 20 € de l'heure, qu'il roule ce camion sur l'autoroute, il coûte 20 €. Quelle est sa vraie valeur ajoutée? Elle est de zéro, quasiment. Où faut-il aller chercher le coût de 20 € au moment où on pratique le chargement et le déchargement, là où l'opération est complexe? Donc notre boulot, c'est, compte tenu de la forcément perte d'effectifs à laquelle nous sommes confrontés dans les années qui viennent, il faut concentrer le savoir-faire de nos opérateurs de transport routier, opérateurs conducteurs, sur les opérations à valeur ajoutée, c'est-à-dire dans nos usines, enfin dans les usines de nos clients, celles qui nous chargent et celles qui nous réceptionnent. Je crois que c'est vraiment important. Et en plus, là je viens au sujet RSE, ça donne plus de sens au métier de conducteur routier. Voilà. En gros, concentrons les savoir-faire là où on doit les concentrer et mettons sur le train ou sur une barge l'essentiel du parcours qu'on doit réaliser. Là où la valeur ajoutée de l'homme est faible, intéressons-nous à un transport vertueux, même s'il est un peu moins rapide, même s'il n'est pas à haute fréquence. Ce n'est pas trop grave. L'important maintenant, c'est de gérer la ressource. Et on a un vrai problème. Je donne juste un petit chiffre sur des prospectifs que nous avons menées. Suite à la crise Covid qu'on a vécue, on a beaucoup de gens qui nous ont quittés, enfin qui ont quitté notre profession, une sorte de ras-le-bol, les gens qui arrivaient au terme de leur carrière, pour lesquels la maison était payée, les enfants étaient élevés, ceux-là ont dit ciao. En fait, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la frange la plus âgée de notre population, c'est-à-dire la plus expérimentée. Et à 100 départs correspondent aujourd'hui 30 arrivées sur le marché. Et dans les 30 arrivées sur le marché, vous avez la moitié de gens qui sont motivés, qui ont vraiment choisi d'aller vers cette profession, et puis vous avez à peu près la moitié de gens qui sont un petit peu moins motivés. Donc, j'attire l'attention sur le fait que nous sommes devant un très gros problème demain. Donc, si nous ne prenons pas, sous la pression ou sans la pression, sous contrainte ou sans contrainte, la décision d'aller vers le transport combiné, je pense que collectivement, monde des transporteurs prestataires, monde des industriels utilisateurs, on va vers de gros soucis.
Merci beaucoup. Et beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit, notamment une analyse économique, mais aussi l'analyse d'une certaine façon RH du secteur, parce qu'il y a des évolutions effectivement qui sont très fortes, qui ont été peut-être accélérées effectivement par la crise Covid. On va revenir avec vous là-dessus, mais je voudrais entendre Benoît Thirion, que je ne présente plus, du cabinet Altermann, et qui a beaucoup contribué à l'élaboration de la stratégie 4F l'année dernière et pendant le premier semestre. On a vu successivement avec François Deric et avec Philippe Virtel plusieurs choses, d'une certaine façon l'opportunité stratégique, l'évidence économique d'une meilleure répartition des flux avec la démonstration qui vient d'être faite par Philippe Virtel. De votre propre point de vue, les planètes sont en train de s'aligner du point de vue de la pertinence écologique du transport combiné?
Bonjour à tous et merci Gilles. Effectivement, on voit que depuis un an et demi, il y a une réelle prise de conscience des atouts environnementaux du transport combiné et qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Ça apparaît aujourd'hui comme une évidence quand on compare les externalités négatives de la route et celles du rail. On voit bien l'intérêt à utiliser le transport combiné sur le domaine de pertinence
sur sa zone de pertinence.
Absolument, sur le domaine de pertinence du rail et à combiner les modes. Et c'est bien là tout l'intérêt du transport combiné. L'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer que c'est ce que nous, on a appelé les co-bénéfices dans le rapport qu'on a réalisé avec Altermann l'année dernière, sont bien pris en compte dans les décisions des différents acteurs économiques. La difficulté, c'est que les externalités négatives, par définition, elles ne sont pas prises en compte naturellement par le marché. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits par les opérateurs de transport combiné, mais il y a aussi des outils de politique publique à mettre en place pour que ces co-bénéfices soient aussi pris en compte par toute la chaîne de valeur, comme vous le disiez tout à l'heure, et notamment par les clients. Et donc, il faut essayer de jouer sur trois leviers, en réalité, sur le levier de l'offre, sur le levier de la demande et sur le levier du financement, en essayant de matérialiser, de valoriser ces co-bénéfices et de faire en sorte que finalement on intéresse toute la chaîne de valeur à ces co-bénéfices. Alors, il y a quelques exemples et quelques réflexions qui sont en cours sur les leviers qu'on peut mobiliser. Si on parle d'abord de l'offre, l'enjeu là, c'est de faire en sorte que ces co-bénéfices sont pris en compte dans les modèles économiques pour améliorer le modèle économique des opérateurs de transport combiné. Et vous avez peut-être vu qu'en ce moment, il y a une réforme de l'encadrement des aides d'État qui est en cours de réflexion au niveau de la Commission européenne. Donc les aides d'État dans le domaine du fret ferroviaire, les lignes directrices ferroviaires. Et c'est intéressant de voir que dans le document qui a été publié par la Commission européenne il y a quelques semaines de cela, elle dit notamment qu'il faut améliorer la prise en compte des externalités négatives dans l'allocation des aides d'État, en particulier en prenant mieux en compte ce que les acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur apporte en termes de report modal. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était une logique de subvention des opérateurs ferroviaires en particulier. La Commission dit là, il faut aussi mettre en place, on peut aussi mettre en place des systèmes d'aide qui bénéficient à d'autres acteurs de la chaîne de valeur du moment que ça favorise le report modal en prenant en compte ces externalités négatives. Alors j'imagine qu'elle a en tête, par exemple, les opérateurs de terminaux.
Concrètement, ça, voilà. Qui s'intéresse ouais.
Donc je pense que ça peut intéresser les opérateurs de transport combiné, ça peut intéresser les opérateurs de terminaux de transport combiné. Tout ça, elle lance des pistes et ensuite ça va être précisé. C'est des discussions qui vont avoir lieu au cours de l'année. Un deuxième levier qu'on peut activer, c'est évidemment le levier de la demande. Parce que ce qu'il faut, c'est intéresser les clients à ces co-bénéfices pour qu'ils aient recours au transport combiné. Et ça a été très bien dit, c'est un vrai enjeu réputationnel, mais aussi aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entreprises, notamment industrielles, prennent des engagements de neutralité carbone à horizon 2050, voire avant. Et qu'un des grands enjeux du respect de ces engagements, c'est notamment ce qu'on appelle les émissions du scope 3, c'est-à-dire les émissions de la chaîne de valeur en amont ou en aval. Et le transport, quelque part, transport de marchandises, ça peut être considéré comme un des aspects les plus facilement maîtrisables par les entreprises pour diminuer leurs externalités du scope 3. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai effort de communication et d'effort commercial aussi à faire de la part des opérateurs pour convaincre les gros acteurs industriels comme Roquette par exemple d'avoir recours au transport combiné sur le domaine de pertinence du rail pour réduire leurs émissions et du coup satisfaire ces objectifs de neutralité carbone. Il y a une piste aussi qui est dans la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire qui est celle de l'écolabel. On sait qu'il en existe beaucoup, là on veut un système d'écolabel, ça peut accélérer ce mouvement. Alors les délais sont assez longs quand même dans la stratégie nationale de fret ferroviaire, donc il ne faut pas attendre 2023 pour entamer cette dynamique, mais en tout cas ça peut être un outil intéressant. Et puis il y a d'autres outils évidemment auxquels on peut réfléchir. Vous avez parlé de taxation, c'est évidemment l'éléphant dans la pièce. Il y a des discussions sur pour faire payer les externalités à la route. On sait qu'il y a des discussions au niveau européen. Il y a aussi les discussions sur les écotaxes au niveau régional. Mais on sait que c'est un sujet très délicat du point de vue politique et social. Donc on peut aussi réfléchir à des outils de fiscalité plus incitatifs, c'est-à-dire qui viennent récompenser les clients qui décident d'avoir recours au fret ferroviaire et au transport combiné en particulier. Par exemple, avec des crédits d'impôt, ça peut être un outil intéressant dans cette perspective. Et puis un dernier levier qu'on peut aussi activer pour monétiser ces co-bénéfices, c'est celui du financement. On sait que dans le transport ferroviaire en général et combiné en particulier, il y a des forts besoins d'investissement dans l'infrastructure, dans le matériel roulant, dans les terminaux. Il y a un vrai sujet de comment on attire les investissements avec aujourd'hui des évolutions qui sont assez favorables au fret ferroviaire et dont le fret ferroviaire et le transport combiné doivent se saisir. Il y a la taxonomie verte qui est adoptée au niveau de l'Union européenne et dont la Commission est en train de préciser les modalités d'application. Le transport combiné rentre...
La taxonomie verte,
c'est une classification des investissements qui permet aux investisseurs d'identifier les investissements verts, disons, pour simplifier, ceux qui sont respectueux de l'environnement, ceux qui sont respectueux aussi d'objectifs sociaux et qui ne viennent pas pénaliser la dynamique de transition écologique. Et la logique de cet outil, c'est de flécher les financements. On sait qu'il y a beaucoup de fonds disponibles aujourd'hui sur le marché vers les investissements verts. Et le fret ferroviaire rentre dans cette définition. Ça a été dit d'ailleurs dans le cadre des travaux préparatoires. Donc c'est une vraie opportunité à saisir qui peut permettre de faciliter le financement de ces investissements et aussi d'en baisser le coût de financement. Parce qu'évidemment, il va y avoir plus de concurrence pour financer ces investissements. Il y a aussi les C2E dont on va parler, je crois, tout à l'heure, qui viennent permettre de faciliter certains investissements. Et puis un outil qui est aujourd'hui dans sa prime jeunesse, qui est l'outil du label bas carbone, qui était mis en place par le ministère, qui sert en fait à certifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par certains projets, de façon aussi à flécher certains financements publics ou privés vers ce type d'investissement. Aujourd'hui, c'est un outil encore peu utilisé. Il a été mis en œuvre seulement dans la foresterie, dans l'agriculture, mais il peut y avoir un intérêt pour la filière à réfléchir à bénéficier de ce dispositif. Il faut faire approuver des méthodes, des méthodologies auprès du ministère. Mais ça peut être aussi intéressant pour réunir les parties prenantes et faire en sorte que des fonds sont fléchés vers des projets d'investissement du transport combiné ou du fret ferroviaire en général. La logique, c'est de dire aux acteurs, venez financer le transport combiné plutôt que de financer une forêt en Amazonie, par exemple, pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a aussi beaucoup d'outils dont on peut se saisir pour aller plus loin.
Merci beaucoup pour ce tableau très complet. Tous les trois, d'une certaine façon, depuis tout à l'heure, vous nous parlez beaucoup investissement, réputation, engagement quasi philosophique, hein, enfin, écologique. Mais si on fait un peu de brutal, il y a aussi la ligne du bas, hein, notamment pour les entreprises qui ne vont pas toujours très bien. Est-ce que vous pensez que à court terme, il pourrait y avoir des outils, vous employez le mot tout à l'heure d'outils, qui pourraient être beaucoup plus directs, beaucoup plus immédiats dans la récompense des efforts des uns et des autres pour verdir le bilan transport. Est-ce que l'État essaie de concrétiser de façon un peu plus forte ses intentions stratégiques, Benoît?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est surtout dans une logique de RSE, de stratégie...
De long terme stratégique.
Exactement. De dire les entreprises doivent prendre des engagements de neutralité carbone. Le fret ferroviaire est un outil. C'est toute la logique de l'écolabel, du coup, de favoriser le recours au fret ferroviaire, au transport combiné, en identifiant bien ce que ça apporte en termes de RSE ou de neutralité carbone. Il y a aussi évidemment tout ce qui est taxation, hein, qui peut faire bouger les lignes. Et puis, mais je le disais, il y a sans doute un besoin là de réfléchir à des outils incitatifs pour les clients. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas encore réellement.
Philippe Viertel, François Deric, vous les attendez, ces incitations fortes?
Alors, la difficulté à laquelle on est confronté, hein, pour les transporteurs qui pratiquent le transport combiné. Il y a en fait deux grands sujets qui mobilisent le CAPEX. Le premier sujet, c'est je transfère une partie de ma flotte de véhicules routiers en engin permettant de faire du rail-route. Bon, ça, c'est vraiment une tarte à la crème. Tout le monde l'a bien compris. Le deuxième sujet qui nous tombe dessus simultanément, c'est la conversion de nos flottes de véhicules moteurs. Alors là, on est sur... Pour les plus anciens, quand on a acheté nos premiers magnétoscopes, on se demandait tous s'il fallait acheter un Betamax ou un VHS. Et ceux qui ont acheté un Betamax, ils l'ont mis à la poubelle. Donc là, c'est le moment de ne pas se tromper. Il faut vraiment qu'on fasse très très attention, alors que l'offre, elle est énorme, tout compte fait. Entre le GNC, le bio-GNC, le GNL, les promesses de l'électricité et les promesses de l'hydrogène, c'est vraiment très complexe. De quoi on a besoin? On a besoin d'être conseillé, okay, et on a besoin d'être aidé financièrement. Je ne demande pas à ce qu'on me donne de l'argent. Je demande à ce qu'on tienne compte de nos efforts, mobilisateur de CAPEX, dans la, grosso modo, le taux d'imposition qui va s'appliquer à nos entreprises.
Et je rêve, c'est de l'encouragement concret, ça.
Et je rêve de la mise en place d'un guichet unique. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait mon métier, qu'on cherche à comprendre de quoi peuvent être faites les aides, je peux vous dire que c'est le parcours du combattant. Et quand on se dit qu'on a un niveau national plus un niveau régional, franchement, on n'y comprend plus grand-chose. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre, et je serais content d'avoir les éclaircissements de M. Tréméac, comment l'ADEME, à mon sens, doit prendre le lead. Le lead est devenir officiellement le point d'entrée des entrepreneurs de transport qui veulent verdir leur activité au fil du temps. Ça, c'est vraiment un point majeur.
Eh bien, qui peut rêver d'une meilleure transition, M. Viertel? Je vous propose d'écouter... Yann Tréméac, qui est chef du service transport et mobilité de l'ADEME. J'espère qu'il va répondre à votre questionnement.
Bonjour à toutes et à tous. Le transport combiné présente des atouts indéniables en termes d'efficacité énergétique. Un train en France émet en moyenne 8 g de CO2 par tonne kilomètre et une marge entre 22 et 44 g de CO2 par tonne kilomètre, les poids lourds émettant, quant à eux, entre 87 et 435 g de CO2 par tonne kilomètre. Pour prendre un exemple, si on considère un transport de marchandises de 760 km, c'est-à-dire 80 km de route pour acheminer les marchandises vers un terminal de transport combiné, 600 km de transport par voie ferroviaire, fluviale ou maritime vers un second terminal de transport combiné, et 80 km de route pour arriver à destination, pour le post-acheminement, sur ce type de trajet, donc de 760 km, un train qui émet 3 tonnes de CO2 transporte autant de marchandises que 45 poids lourds qui émettent 44 tonnes de CO2, une barge qui émet 36 tonnes de CO2 transporte autant de marchandises que 125 poids lourds qui émettent un peu plus de 120 tonnes de CO2. En matière d'émissions de polluants liées à la combustion, dès lors que l'on utilise des locomotives thermiques, l'usage du vecteur hydrogène ou d'autres carburants comme le bio-GNV ou encore l'électrification des moyens sont des solutions pertinentes pour limiter ces émissions. Pour le ferroviaire, des travaux restent encore à mener concernant le bruit relativement aux matériaux et en matière d'impact sur la biodiversité relativement à l'usage d'herbicides pour le désherbage des voies. Si on se réfère aux chiffres présentés sur le site du GNTC, le transport combiné, c'est 1 million de camions en moins sur les routes en France chaque année, 1 million de tonnes de CO2 économisées par an et une baisse de 85% des émissions de CO2 par rapport au transport routier. Pour plus de précisions, je vous encourage d'ailleurs à consulter la base carbone de l'ADEME qui donne les facteurs d'émission par tonne kilomètre en fonction des typologies de moyens utilisés à l'adresse bilan-ges.ademe.fr. Le développement du transport combiné est donc pour nous un levier majeur en matière de décarbonation et de transition écologique du secteur des transports. Je ne détaillerai pas les différents dispositifs mis en œuvre par l'État pour promouvoir le report modal en matière d'aide à l'exploitation ou de plan d'aide au report modal, mais plutôt sur ce que nous faisons, nous, à l'ADEME, avec les acteurs de l'écosystème. Pour mémoire, le report modal est un des trois axes de la stratégie transport et mobilité de l'ADEME. Les deux autres concernant les changements de comportement, autrement dit la maîtrise de la demande, et l'optimisation de l'existant, notamment en termes de technologie. Cet axe report modal de la stratégie transport et mobilité de l'ADEME vise à favoriser le recours aux modes les plus performants, environnementalement parlant, et donc notamment pour ce qui concerne la marchandise, les modes massifiés que sont le ferroviaire ou le fluvial. Pour rendre concret notre engagement sur le sujet, nous avons d'ailleurs mis en œuvre avec le GNTC une convention de partenariat structurée autour de quatre axes. Un premier axe visant à contribuer à créer un observatoire du transport combiné, afin de fournir des indicateurs et de données statistiques pour le secteur. D'ailleurs, des travaux vont très prochainement commencer sur ce sujet de création d'un observatoire. Un second axe pour réaliser des actions d'information et de communication. Un troisième axe afin de contribuer au lancement de nouvelles études, par exemple pour réfléchir à des incitations ou à de nouveaux types de financement pour faciliter l'émergence de nouvelles lignes. Et un quatrième axe visant à favoriser l'innovation dans le secteur du transport combiné. L'ADEME est aussi impliquée sur la question du report modal dans le cadre du programme de certificat d'économie d'énergie EVE, engagement volontaire pour l'environnement des acteurs du transport de marchandises et de voyageurs, aux côtés de la DGITM, de la DGEC, d'EcoCO2 et des différentes organisations représentatives du secteur que sont la FNTR, OTRE, TLF, la CGI, la UTF et la FNTV. Au travers des trois dispositifs, objectifs CO2, EVCOM et FRED 21 qui composent ce programme, des actions sont mises en avant pour promouvoir le report modal vers les modes ferroviaires et fluviaux. Et nous souhaitons renforcer notre implication sur le sujet du report modal, pourquoi pas dans le cadre de nouveaux programmes de certificats d'économie d'énergie à construire. Des travaux ont aussi été menés de manière conjointe avec les services du ministère de la Transition écologique et de tout l'écosystème des ports français, pour l'élaboration d'une stratégie nationale portuaire mettant aussi en avant la pertinence du recours au transport combiné. Enfin, dernièrement, dans le cadre du programme des investissements d'avenir, plus précisément du PIA4, un appel à projet opéré par l'ADEME a été ouvert pour financer l'innovation du secteur en accompagnant la digitalisation et la décarbonation du ferroviaire au travers de trois axes, le fret ferroviaire, le train léger et la signalisation. L'ADEME, de son côté, lance aussi des appels à projets de recherche pour accompagner l'innovation et finance ainsi des lauréats. Et nous avons notamment accompagné dans le cadre de notre appel à projet Translog, la société AM, A2ME, pour le développement, l'expérimentation et l'évaluation d'un hub multimodal serviciel en cœur de ville pour une logistique urbaine durable. En guise de conclusion, le transport combiné offre ainsi une solution logistique sobre en énergie de report modal qui apporte des réponses alternatives aux autoroutes écologiques, économiques et sociétales. D'un point de vue sociétal notamment, il peut être une réponse efficace à la pénurie de chauffeurs routiers importante en France, tout en permettant une relocalisation des emplois. En matière de développement durable, le transport combiné est, comme nous l'avons dit, un des atouts majeurs de la transition écologique en France. Il contribue au confort sociétal en termes de santé publique, d'accidentologie, de nuisances sonores, de qualité de l'air et de congestion routière. Dès lors, il nous faut amplifier les actions pour favoriser le report modal, dans un contexte d'urgence climatique avérée. Il nous faut tous, État, opérateurs de transport, donneurs d'ordre, faire plus et plus vite sur la question du report modal, afin d'en faire un levier puissant en matière de transition écologique du secteur des transports.
Une confirmation supplémentaire, donc, que tout le monde est aligné sur la même, sur le même objectif. Bon, on n'est pas encore au guichet unique, mais bon, en tout cas, le message sera passé. François de Ryck, votre commentaire sur tout ce qui vient de se dire.
En tant qu'industriel, nous, ce qu'on demanderait également, c'est, comme disait M. Virten, un guichet unique. Ce serait quand même très intéressant, parce qu'aujourd'hui, le système est assez complexe et difficile à comprendre et à manipuler. Ensuite, le deuxième axe qui me semble très intéressant aussi, c'est ce que mentionnait M. Thirion sur le fléchage, on va dire, des investissements. Nous, on a des investissements à réaliser pour développer le report modal dans nos usines, soit pour améliorer les accès ferroviaires, c'est-à-dire que nos voies sont dédiées en fait à la réception des matières premières, puisque toutes nos usines réceptionnent des trains. On a du mal, moi je voudrais les utiliser pour expédier les produits vers les clients. La congestion des embranchements fait qu'on est obligé de faire des travaux. Donc si on pouvait, par exemple, flécher certains investissements d'amélioration de nos voiries internes sur cet aspect vert, ça nous permettrait, nous, en interne, d'accélérer ces investissements et de les mettre en place, ou des investissements sur des points de chargement vrac, aujourd'hui dans l'usine, qui sont techniquement nous rendent impossible de charger des isotanques ou des containers, des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un axe de... Pour un industriel, c'est vraiment une façon... d'accélérer le report modal de façon très, très intéressante, plutôt que d'être toujours sur de la taxation, on va dire, punitive, dont on parle trop souvent, malheureusement.
Benoît Thirion, pour terminer, Thierry Guimbaud évoquait tout à l'heure peut-être une nouvelle génération de certificats d'économie d'énergie. On abordera dans quelques instants la question avec Total Energy. C'est un élément important aussi du dispositif, ce genre de modernisation des mesures existantes.
Bien sûr, c'est un outil très important pour faciliter les investissements, notamment dans le matériel roulant, ça marche.
Yann Prémeac le confirmait aussi. Hein. Oui. On sentait que c'est vraiment dans le scope.
Absolument.
En ce moment.
Après, les C2E, ça prend en compte, comme leur nom l'indique, que les économies d'énergie. Et donc, par exemple, ça ne prend pas en compte les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en tant que telles. Donc, ça n'épuise pas du tout la réflexion sur comment on fait pour faciliter ces investissements-là, et notamment la conversion du transport routier vers des modes de transport, enfin des motorisations plus propres.
Merci beaucoup. Un dernier mot, Philippe Virtel.
Oui, si je peux prendre la parole, c'est juste une petite alerte à faire. On a parlé beaucoup d'alignement de planètes favorables au transport combiné, mais j'ai une petite inquiétude sur un éventuel et rapide dérèglement des planètes. Je m'explique. Tout le monde ici sait que en juillet dernier, a été signé un décret qui va impacter une grande partie de nos activités. C'est ce décret qui va limiter le transport intermodal transfrontalier à 42 tonnes. Je trouve que c'est infiniment dommage. Au moment où on lance une expérimentation franco-française de rouler à 46 tonnes de et vers nos terminaux de transport combinés, je trouve qu'il est vraiment dommage qu'on limite ce qui va se passer, enfin, les capacités d'emport à compter du 1er janvier, alors que se mettent seulement en place, suite à des éléments de réflexion antérieurs, les solutions qui permettront de développer le transport intermodal. Je m'explique rapidement. Je suis à Dourges, je suis à quelques kilomètres de la frontière belge, je suis à Bettembourg, je suis au Grand-Duché de Luxembourg, à Sarrebruck, je suis en Allemagne à 2 kilomètres de la France, je suis à Strasbourg en France à 2 kilomètres de l'Allemagne. De ces endroits, le 1er janvier, je suis incapable de circuler à 44 tonnes comme je pouvais le faire jusqu'à présent. Donc tout ce qui a été bâti ou aura été bâti, prêt à démarrer pour l'année prochaine, va bêtement s'écrouler. Donc je souhaite que ce message, qui est un message du GNTC, qui n'est pas le message de Philippe Virtel, soit un message entendu et que la raison l'emporte et qu'on revienne en arrière sur ce décret.
Je ne sais pas si c'est partagé par la salle. Donc manifestement, c'est partagé. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier François de Ryck, Benoît Thirion et Philippe Virtel pour cet échange. Alors, comme je l'annonçais il y a quelques instants, on va maintenant parler certificat d'économie d'énergie. Et je vais demander à Caroline Meunier, qui est au sein du service transport et mobilité de Total Energy, chargée des CE, de nous rejoindre avec vous, Frédéric Guinard, pour nous parler, installez-vous, je vous en prie, pour nous parler voilà, il y a de la place, voilà, des micros, pour nous parler des CE. C'est maintenant une tradition, hein, au moment de l'Assemblée Générale du GNTC, d'aborder cette question des CE avec vous. Avant de voir concrètement avec vous, Frédéric Guinard, comment les opérateurs peuvent bénéficier de ces CE, d'entrer dans le vif du sujet. Peut-être vous pouvez nous rappeler, Caroline Meunier, un peu le dispositif général et les objectifs de Total Energy en matière de CE.
Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Donc, très heureuse de vous retrouver, effectivement, après cette longue période de Covid. À la fois, tout a changé et rien n'a changé. Donc, tout a changé parce que vous avez pu voir qu'on a changé de nom. La compagnie Total Energy a souhaité indiquer son renouveau et cette volonté d'aller vers la transition énergétique et la commercialisation de toutes les énergies. Et rien n'a changé puisque on compte sur nos partenariats historiques, donc avec le GNTC, et sur nos métiers historiques. Le transport combiné nous concerne parce que nous aussi, nous sommes un transporteur, nous sommes aussi à vos côtés. Nous avons une expertise sur toute la chaîne. Le dispositif en lui-même n'est pas récent, puisqu'il date de 2006. Il y a un marché maintenant des C2E depuis quelques années avec un index de marché, même si le marché n'est pas encore liquide. Comme l'a indiqué tout à l'heure M. Thirion, c'est vrai qu'on a l'interconnexion avec le scope 3 pour aller dans une dynamique de réduction de la politique zéro carbone européenne. Et donc, on veut aider nos clients à baisser cette charge carbone. Ce dispositif va arriver dans sa cinquième période, au 1er janvier. Il faut savoir que Total souhaite vous accompagner sur les trois leviers du dispositif des C2E. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées d'efficacité énergétique. On a également une casquette à la T2E où on peut créer une nouvelle fiche. J'ai d'ailleurs, je pensais sur le fluvial, j'ai dû lutter contre l'abrogation de la fiche acquisition de nouvelles barges. Puisqu'en fait, ce dispositif est complexe et réglementaire. Et on veut nous obliger à ce qu'à partir d'une non-utilisation au bout de 5 ans, la fiche soit abrogée. Donc il faut être assez vigilant. N'hésitez pas à venir avec de nouvelles idées. On essaye d'en avoir, mais ce sera sûrement plus riche. C'est maintenant qu'on peut de nouveau échanger ensemble, si vous pouvez venir vers moi et essayer de renforcer en fait la présence du transport dans ce dispositif économie d'énergie. Il faut savoir que le dispositif a été pensé pour le bâtiment. Ça représente en tout une centaine de fiches, fiches d'économie d'énergie, et seulement 30 pour le transport. Nous souhaitons pouvoir augmenter ce gisement-là. Il y a un deuxième gisement dont on a beaucoup parlé, qui est le gisement des programmes d'économie d'énergie. Effectivement, l'appel à programme pour la prochaine période est paru mardi et je me félicite que l'un des thèmes soit sur le report modal fluvial et ferroviaire. Donc on est très on sera à vos côtés pour financer ces projets. Quand je dis financer, je peux aussi donner des chiffres, c'est-à-dire que chaque année on dépense 1 milliard d'euros dans les certificats d'économie d'énergie. Donc vraiment, pensez à nous, on souhaite vous accompagner. Dans la salle également, on a un back-office spécialisé transport. Donc quand vous vous adressez à nous, vous avez tout au long de la chaîne des transporteurs pour vous répondre et pas des technocrates. Voilà donc ce que je pouvais dire sur le dispositif.
Donc on a compris le message, disponibilité pour répondre aux besoins de la profession. Et comment ça marche exactement? Qu'est-ce que ça donne en matière de, vous parliez de fiches et de dispositifs?
Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement des C2E, notamment pour la partie transport combiné. Donc, comme le disait Caroline, il y a dans le catalogue des fiches C2E qu'on appelle opérations standardisées, une trentaine de fiches qui concernent le domaine du transport. Et à l'intérieur de ces 30 fiches, il y en a trois plus particulièrement qui sont dédiées au transport combiné et qui peuvent permettre d'accompagner nos partenaires bénéficiaires financièrement aux investissements d'équipements pour effectivement réaliser ce transport combiné. Donc ces trois fiches, j'ai tenté là de vous donner quelques exemples. La première, c'est une fiche qui concerne le transport combiné rail-route et donc qui porte sur les investissements de caisses mobiles ou de semi-remorques à prise par pince, neuves, destinées au transport combiné rail-route. Les équipements éligibles sont les caisses mobiles et les semi-remorques à prise par pince. Ce qui est exclu de la fiche, c'est les containers maritimes de type ISO, mais enfin, je pense que dans l'Assemblée, tout le monde connaît cette subtilité. Et la fiche en question, comme toutes les fiches d'ailleurs d'opérations standardisées, prévoit un forfait qui est exprimé en kilowattheure QMAC, qui est un peu l'unité, on va dire, dans le monde des C2E, qui est double, en l'occurrence, puisque ça dépend de la taille de la caisse, la longueur plus exactement, et du poids transportable par la caisse. Donc c'est un forfait qui a été établi il y a plusieurs années sur la base d'études de gisements d'économie d'énergie, puisque comme le rappelait un des intervenants précédemment, les C2E ne concernent vraiment, et c'est important, hein, que les économies de consommation, les économies d'énergie, et pas du tout encore aujourd'hui, en tout cas, les économies de CO2. Donc ces deux forfaits ont été établis sur la base de situations de référence et s'appliquent aujourd'hui à tout voyage d'une caisse mobile neuve, évidemment, hein, on ne peut pas valoriser les caisses déjà en circulation, il faut que ce soit un investissement d'un équipement neuf entre deux terminaux de plateformes multimodales situées en France métropolitaine, et ce, quelle que soit la distance parcourue et le poids transporté par la caisse UTI. Donc le calcul est assez simple, hein, on observe pendant 6 à 9 mois, on va dire, les trajets réalisés par un équipement, par une caisse, on les comptabilise. Donc là, notre back-office situé à Albi, dont faisait référence Caroline tout à l'heure, est tout à fait à même d'accompagner nos bénéficiaires sur la recherche de l'optimisation du nombre de trajets maximum sur une période de 6 mois consécutive. Et on multiplie ça par le forfait, donc par exemple 18,5 MWh QMAC. Et ce montant de kilowattheure QMAC est ensuite multiplié par 2 pour le transposer sur une année complète d'utilisation. Donc concrètement, j'ai pris un exemple là qui vaut ce qui vaut. Hein. Imaginons une caisse UTI de plus de 9 mètres, pardon, qui fait 130 trajets, donc c'est à peu près un trajet par jour, 5 jours par semaine pendant 6 mois, entre deux terminaux multimodaux. Si on valorise ça à la valeur actuelle du C2E, à titre... on va dire indicatif, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, eh bien, ça donne un financement de 32 700 euros, dans l'exemple que j'ai pris là, pour une caisse donnée.
Pour un investissement qui...
Alors, l'investissement, vous connaissez mieux que moi, j'imagine, le prix d'une caisse mobile. Hein, donc, voilà. Le taux de couverture, je pense, sur l'investissement lui-même de la caisse mobile est important. Après, on est bien conscient qu'à partir du moment où on fait du multimodal, il n'y a pas que l'investissement dans la caisse qui rentre en ligne de compte, mais il y a effectivement toute la logistique. Voilà. Mais je pense que le taux de participation et le taux de couverture des C2E peut être intéressant, et il est d'autant plus intéressant où la fréquence des trajets est importante, puisque c'est bien le multiplicateur qui sera pris en compte pour faire ce calcul.
Deuxième type de fiche.
Alors, deuxième type de fiche, je vais passer rapidement dessus parce qu'elle est assez similaire. C'est la même chose, mais pour les caisses transportées sur les barges, donc sur les transports fluviaux. Pareil, hein, c'est le même type d'équipement qui est valorisé. Simplement, le forfait est calculé en fait de façon un peu différente. Il est calculé en fonction du bassin de navigation de l'équipement et du bateau, enfin de la barge sur laquelle, enfin du bateau, non, sur laquelle l'UTI est transportée. Donc, je vous ai mis ici les petits barèmes. Mais si on fait le même calcul que précédemment, on voit que la valorisation est de l'ordre d'à peu près de 10 000 euros pour 90 trajets. Bon, c'est pas tout à fait le même nombre de trajets que tout à l'heure, mais c'est à peu près la même chose. Et ce aussi, quelle que soit la distance et le poids transporté, puisque en fait, que la caisse mobile voyage à plein ou à vide, elle a la même valorisation pour le dispositif des C2E.
Et une troisième pour finir.
Et une troisième pour finir, donc qui est celle qui est peut-être la plus compliquée, on va dire, qui concerne les wagons d'autoroute ferroviaire. Donc deux petites précisions par rapport à cette fiche, qui a évolué en cours d'année 2020. Donc là, il s'agit en fait de participer à l'investissement de wagons d'autoroute ferroviaire dédiés au transport de Smirmorque. Jusqu'à avril 2020, la version précédente de l'affiche définissait un forfait par ligne d'autoroute ferroviaire. Donc il y avait une quinzaine de lignes qui étaient listées dans l'affiche, point de départ, point d'arrivée. Pour chacune des lignes, il y avait un forfait qui était défini en kilowattheure Cumac. Ça, c'était pour les wagons mis en service, on va dire, avant avril 2020. Pour les opérations engagées depuis avril 2020, la fiche s'est un peu assouplie et aujourd'hui...
On voit que c'est assoupli, c'est manifeste.
Assoupli. Le forfait est calculé sur la base de la comparaison entre la distance routière et la distance ferroviaire, entre deux points toujours. Hein. Il faut évidemment toujours qu'il y ait au moins un terminal qui soit situé en France métropolitaine, puisque bah, les C2E, c'est bien un dispositif franco-français. Et donc là, pour le coup, la valorisation peut être effectivement assez importante. Donc là, j'ai pris un exemple d'un wagon d'autoroute ferroviaire qui réaliserait 120 trajets sur une période de 6 mois entre Calais et Perpignan. Si on applique la petite formule de calcul qui est à l'écran, ça nous donne un financement à travers le dispositif des C2E qui est de l'ordre de 120 000 euros. Donc là aussi, je pense des sommes importantes. Donc multiplié évidemment par le nombre de wagons, ça peut faire, je pense, une aide à l'investissement significative de la part par ce dispositif des C2E.
Donc quand on va vous voir, en gros, vous aider à faire ça.
Hein, oui, alors voilà. Un des gros points forts, je pense, de Total Energy, c'est qu'effectivement, forcément, pour faire produire auprès de l'administration une demande de certificat d'économie d'énergie qui a les meilleures chances d'aboutir, il faut constituer un dossier relativement solide, avec des pièces de preuve irréfutables, si je puis dire, puisque la DGEC, qui in fine attribue ces C2E, vérifie bien que toutes les dispositions et tous les prérequis de la fiche sont bien respectés. Et pour ça, on a donc une équipe d'une quinzaine de personnes qui passe ses journées à monter des dossiers C2E Transport, donc qui est vraiment experte dans le domaine, et qui accompagne au maximum l'ensemble de nos bénéficiaires. En fait, on prend à notre charge tout ce travail administratif de collecte de documents, de mise en forme et de présentation du dossier auprès de l'administration. On fait ça depuis de nombreuses années maintenant, et on a un taux de réussite, on va dire, entre les demandes que nous faisons et les C2E qui nous sont attribués à la fin, qui conditionne forcément le versement de la prime à nos bénéficiaires, donc c'est quand même important que le dossier aboutisse, in fine. On a un taux de réussite qui, enfin, si je ne me trompe pas, est de 100%. Je pense qu'on n'a jamais eu un seul rejet de dossier. Donc on a vraiment une expertise certaine dans ce domaine, et je pense que c'est un vrai plus en termes d'accompagnement, pour vous accompagner, pour pouvoir bénéficier de ces financements.
Merci beaucoup. Un taux de réussite à 100%, mais c'est vrai que c'est une formule qui est intéressante, hein, qui rappelle quelques vieux souvenirs d'études. Hein.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
C'est vrai que le report modal, ce qui nous intéresse, en fait, c'est aussi que c'est un projet industriel. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de place à l'amateurisme. Alors attention, parce que les C2E, ça devient aussi un business. Et on s'en rend compte parce que parfois, on a des interlocuteurs qui ne savent pas, par exemple, qu'il faut mettre en place une plateforme multimodale. Donc, en fait, c'est là où Total Energy, on a l'habitude aussi des projets
conseils,
industriels.
De faire
des conseils ça ne nous effraie pas, mais il ne faut pas se lancer sans cette dimension complète, en fait. C'est vrai que le report modal, c'est plus complexe que ça n'y paraît.
Merci beaucoup. J'avais envie de faire un petit sondage en temps réel. Combien d'entre vous ont eu recours à des CEE, déjà, si vous voulez lever la main? Ah, quand même, une douzaine. Il y a encore du potentiel.
Donc voilà, ça laisse beaucoup d'espoir.
Voilà,
donc,
vous savez
n'hésitez pas, on est à votre disposition.
Vous savez maintenant comment faire. Il y a à la fois du conseil, un prof de maths. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut chez vous pour vous aider. Je crois qu'on peut remercier Caroline Meunier et Frédéric Guinard. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai évoqué en introduction de cette matinée le nouveau contexte né de la mobilisation de 4F, de la mobilisation de l'État, etc. On arrive maintenant au cœur de cette question. Et avant d'entamer la table ronde justement sur ce plan de relance et voir comment tout ça va s'articuler, je vous propose d'écouter le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, qui a voulu s'adresser à vous pour parler de ce plan de relance et du fret ferroviaire et combiné en particulier.
Bonjour à tous. Je ne pouvais pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. La crise l'a rappelé, le fret ferroviaire et en particulier le transport combiné sont indispensables. Et parce qu'ils sont indispensables, nous devons leur redonner la place qu'ils méritent. Je veux qu'en 2030, la part modale du fret ferroviaire ait doublé. Elle est aujourd'hui de 9%. Je veux qu'en 2030, elle atteigne 18%. L'objectif, c'est donc de rétablir la compétitivité du rail. Pour y arriver, nous avons une stratégie, la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire. Vous l'attendiez depuis longtemps, nous l'avons publiée le mois dernier. Sa réussite dépend de notre mobilisation à tous et dans la durée. L'État, bien sûr, mais vous aussi, les opérateurs, les chargeurs, le gestionnaire d'infrastructures. Avec cette stratégie, nous prenons des engagements forts, des engagements inédits, des engagements qui vont pleinement bénéficier au transport combiné. Il y en a quatre qui le concernent particulièrement. Premier engagement, la relance des accords cadres. Je sais que vous l'attendiez, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est acté et ce sera effectif à compter de 2022. Deuxième engagement, les aides à l'exploitation. Cette année, nous avions engagé 170 millions d'euros d'aides en plus. Ce soutien, nous avons décidé de le pérenniser jusqu'en 2024. Cela veut dire que chaque année, jusqu'en 2024, nous prendrons en charge 70% des péages dus par les opérateurs à SNCF Réseau. Cela veut dire que chaque année jusqu'en 2024, nous aiderons les services de transport combiné à hauteur de 47 millions d'euros, soit 20 de plus que les années précédentes. Ces aides, elles permettent aussi de lancer de nouvelles autoroutes ferroviaires, Perpignan-Rungis, qui redémarrera demain, mais aussi Calais 7 et Cherbourg-Bayonne. Troisième engagement, d'ici 2023, nous établirons un schéma directeur national du transport combiné. Il sera ensuite décliné dans des études régionales pour étudier de potentiels sites d'implantation de terminaux multimodaux. Je sais qu'en Île-de-France, les capacités sont particulièrement saturées et le foncier rare. Une étude spécifique à la région sera donc lancée dans les meilleurs délais. Quatrième engagement, d'ici 2022, nous définirons une stratégie d'aménagement du réseau ferré national. Avec un objectif, couvrir l'ensemble du territoire par un réseau d'autoroutes ferroviaires à l'horizon 2030. Voilà pour la stratégie. Seulement pour relancer le fret, il ne faut pas seulement des engagements, il faut aussi des investissements. Et justement, nous finançons 1 milliard d'euros d'investissements grâce au plan de relance. Avec ce milliard d'euros, nous allons créer et moderniser des terminaux, et notamment les terminaux rail-route essentiels au transport combiné. Des plans de financement ont pu être finalisés pour 8 projets de terminaux. Je pense par exemple à ceux de Calais, de Clé-Sud, de Lyon-Vénissieux, d'Avignon ou de Valenton. Une quinzaine d'autres projets sont en cours d'instruction. Avec ce milliard d'euros, nous allons également améliorer le gabarit des axes prioritaires et la desserte ferroviaire des ports fluviaux. Nous allons moderniser les voies de service et les installations de tri, les capillaires fret et les outils de gestion de capacité. Bref, nous allons rendre le fret plus fiable, plus attractif et plus compétitif. Je sais que je ne suis pas le premier à vous le dire, mais je suis convaincu que la stratégie que nous avons élaborée ensemble et les moyens que nous engageons sont de nature à enfin changer les choses. Et pour ça, nous aurons besoin de vous, nous aurons besoin de votre mobilisation, nous aurons besoin de transports combinés, parce que le transport combiné, vous l'avez compris, est au cœur de cette stratégie. Je vous remercie.
Voilà pour la communication du ministre. Avec quelques confirmations et puis quelques nouveautés, quelques annonces dont on va pouvoir débattre maintenant. Et j'invite les différents débattants à me rejoindre sur scène pour parler de ce plan de relance. Jean-Claude Brunier, Ben Bernaert, Éric Champéron, Éric Gilbert et Paul Mazzato. Asseyez-vous, il n'y a pas de préséance, vous vous asseyez où vous le souhaitez. Et Paul Mazzato. Alors, je pense que vous connaissez tout le monde. Ben Bernaert, vous êtes général manager de Combinant. Vous nous direz tout à l'heure exactement votre activité à Anvers. Jean-Claude Brunier, Open Modal. Éric Champérol, directeur général de Navirant Cargo. Éric Gilbert, directeur général de PSCCT, Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal. Vous êtes particulièrement dans l'actualité, puisque demain, le ministre le rappelait à l'instant, on va beaucoup parler de Perpignan, hein, avec le fameux train des primeurs. Et Paul Mazzato, à ma droite, directeur projet SNCF, projet fret, pardon, à SNCF Réseau. Alors, je voudrais commencer avec vous, Éric Champérol, donc directeur général de Navirant Cargo. Bon, le ministre a précisé la stratégie, ça. Il a terminé en disant, bon, on a besoin de vous, et vous, ce sont les différents opérateurs. Comment vous voyez cette nouvelle dynamique transport combiné et fret en général?
Alors, nous, on le vit au travers d'une croissance assez importante depuis au moins un an, qui avait été altérée, mais qui se poursuit depuis plutôt trois ans. Mais un point de surchauffe évident qui avait été annoncé par le ministre, mais c'est les terminaux. C'est-à-dire aujourd'hui, pour envisager atteindre les objectifs annoncés, ce sera pas possible si on reste dans le schéma de terminaux que l'on a actuellement. On est déjà en saturation, on ne peut pas accueillir d'autres trains sur les principaux terminaux. Donc c'est l'urgence, si on veut, permettre encore une croissance. Deux, derrière, il faut donner de la pérennité. De la pérennité, c'est pas proposer les terminaux actuels pour une durée de 5 à 10 ans. C'est pas possible. Aujourd'hui, un terminal, c'est 60-70 personnes, avec 4-5 métiers différents, et des métiers extrêmement techniques qui touchent au ferroviaire, à la manutention, à la réparation des conteneurs, à l'informatisation, à la sécurité. Et ça, c'est des investissements de très long terme qui sont de la cabine du privé et des opérateurs. Il faut laisser la main aux opérateurs sur le développement des terminaux, avec réseau, bien entendu, puisque le sol, le foncier et l'accès ferroviaire ne peut dépendre que d'un organisme national. Et je pense qu'il faut identifier et rouvrir des pans entiers des infrastructures, quitte à ce que l'opérateur privé réinvestisse, mais des engagements fermes et pérennes dans le temps pour permettre l'exploitation de ces terminaux.
Donc, premier thème, effectivement, les terminaux. Éric Gilbert, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde que c'était aussi une priorité pour vous d'ouvrir ces terminaux à l'ensemble des acteurs.
Oui, on constate qu'il y a une forte demande de la part des transporteurs routiers. Donc les terminaux sont premièrement au service de leurs clients, les opérateurs de transport combiné, et par voie de conséquence, des transporteurs routiers. Donc l'activité, comme l'a dit Eric, se développe beaucoup, c'est ce qu'on constate tous. Aujourd'hui, il y a une forte demande des transporteurs routiers d'utiliser le train, soit pour mettre des caisses mobiles qu'on connaît classiquement, ou des semi-remorques. Et aujourd'hui, force est de constater que les opérateurs qui ont des offres existantes roulent avec des trains chargés soit au maximum ou en limite de la capacité des trains, et que donc pour que les transporteurs routiers puissent charger plus de remorques ou de caisses sur le train, il faut des trains en plus. Et pour avoir des trains en plus, il faut des sillons, et pas que sur des axes favorisés, entre guillemets, comme l'axe sud-nord par la vallée du Rhône, mais il y a vraiment besoin de pouvoir créer des offres de services par les opérateurs de transport combiné à leurs clients transporteurs routiers. Et pour ça, il y a besoin d'offres. Il y a effectivement aussi besoin de terminaux. Comme l'a dit Eric, les terminaux existent. On a une capacité, on investit beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'investissements qui sont réalisés sur les terminaux en termes humains, en termes techniques, la digitalisation, la sécurisation des sites, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, beaucoup de choses. Pour ce qui nous concerne, nous, on ouvre aussi beaucoup notre terminal en plage horaire, on est ouvert de 6h30 à 4h du matin maintenant, et l'évolution aussi qu'on rencontre, c'est la manutention de semi-remorques. Il y a 3 ans, nous ne manutentionnons que des conteneurs. Aujourd'hui, on manutentionne aussi des semi-remorques, ce qui impose des process différents sur le terminal et de la place supplémentaire.
Quand vous dites process différents, c'est-à-dire
Notamment dans le contrôle des unités, puisque les unités de transport intermodal sont codifiées, elles s'inscrivent dans des gabarits ferroviaires codifiés, les entreprises ferroviaires les connaissent, alors que les unités de transport nouvelles, comme les semi-remorques, préhensible ou non préhensible, nécessite des contraintes de contrôle approfondies.
En début de cette table ronde, si je vous écoute tous les deux, en gros, vous dites il faut plus d'offres, il faut augmenter la capacité des terminaux. Jean-Claude Brunier, vous êtes d'accord sur cette priorité? On parle depuis quelques années lors de cette AG du GNTC des terminaux. Là, on a l'impression que sous l'effet de cette nouvelle conjoncture, il faut accélérer cette libération des terminaux.
En effet, moi, je vis une assemblée générale du GNTC comme je n'ai jamais vécu. Tous les feux sont au vert. Nos présidents nous l'ont dit depuis certaines années. Le gouvernement nous a présenté un plan, le plan de relance ferroviaire, particulièrement du transport combiné, exhaustif, complet, dans lesquels, et alors ce plan est tout à fait remarquable, pour la bonne raison, me semble-t-il, très simplement, qu'il a été fait avec les professionnels de 4F, et c'est une excellente idée de l'avoir fait dans ces conditions. Il faut donc, tout est là, et nos préoccupations d'aujourd'hui, c'est qu'il faut les capacités, il faut des terminaux, il faut des sillons. Et pourquoi? Parce que les clients, on vient de le dire, demandent du transport combiné. C'est la solution brillamment démontrée par Philippe Vertel. Il est temps que tout le monde se mette au transport combiné. On a la solution sous la main. Il faut qu'on la mette en œuvre. Et c'est là, peut-être, où il faut que notre intention se porte. Je vais y revenir. Donc, il faut entre autres des terminaux. Il faut certainement les gérer différemment, les moderniser, les rendre plus performants et en construire. Sacré programme. Et pour ça, il faut certainement voir comment on le fait, parce que pour l'instant, on a encore quelques inquiétudes sur la façon dont on va le faire.
Voilà. C'est-à-dire ?
Eh bien, il faut que, soyons pratico-pratiques, nous, dans nos entreprises, nous sommes en train, sur la demande du ministre, sur la demande de nos clients et sur la demande de nos concitoyens, de mettre en œuvre enfin les solutions pour le transport, pour le rendre décarboné, efficace, frugal en énergie, etc. On vient de nous montrer que nous avons les solutions. Donc oui, il faut le mettre en œuvre. Voilà la difficulté.
Alors, je voudrais avoir l'avis sur cette question de Ben Bernhardt. Alors, à Anvers, il y a des terminaux qui sont assez efficaces. Comment vous voyez, vous, les terminaux hexagonaux, les terminaux français ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses ?
Je pense premièrement qu'on a besoin de terminaux partout. En Belgique, c'est créé. Moi, j'ai eu l'avantage qu'à côté de moi, il y a une grande usine qui s'appelle BASF, qui a eu l'idée pour construire un terminal à côté de leur site, pour avoir directement les conteneurs, les citernes, mouvement directement de l'usine vers le train. Alors, c'est un grand avantage, mais on a besoin de ces terminaux. Et ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire tout. C'est aussi l'industrie, c'est les gens privés qui peuvent construire les terminaux, qui peuvent payer. Naturellement, nous avons aussi eu des subsides de l'Europe au début pour construire le terminal, mais le coût total pour construire le terminal, c'était 30 millions d'euros. Et maintenant, on fait environ 140 000 unités par an qui sont transbordées de route vers le rail. Et comme déjà parlé avant, maintenant, il y a vraiment la possibilité pour augmenter et pour faire des investissements. L'Europe a fait sa nouveau CEFCOL. Là, il y a la possibilité. Avant, c'était tu dois investir 5 millions d'euros pour avoir environ 1 million en retour. Maintenant, c'est diminué. Si tu investis environ 3 millions d'euros, tu peux gagner ou retourner 1 million d'euros. Alors, c'est quelque chose que chaque terminal doit être vraiment ouvert. Et ouvert, je veux dire avec ça, tout le monde peut entrer, tous les tractionnaires, tous les clients. OK, moi, je suis à côté de BASF, ils sont actionnaires pour 45%, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement 20% qui vient de BASF. La reste vient du secteur. Et la première chose que tout le monde a besoin, c'est d'avoir un terminal dans la région, je ne sais pas, 200 kilomètres. Peut-être moins. En Belgique, c'est, mon avis, il y a trop de terminaux de temps en temps parce qu'il y a partout un port. Il y a le port autonome de Bruxelles, le port autonome de Liège et tout le monde veut des terminaux. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être, mais le volume est là et on doit faire le nécessaire pour créer. Et pas seulement les citernes, caisses mobiles et trailers, on va être ouvert pour tout, pour avoir un service.
Des terminaux œcuméniques, donc gérés par le privé et ouverts à l'ensemble des partenaires. C'est ça votre rêve, Jean-Claude Brunier, Éric Champérol?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'il faut faire des terminaux, les moderniser. Nous n'avons pas construit ou très peu de terminaux pendant plusieurs décennies. Nous avons un retard assez important par rapport aux terminaux maritimes. Évidemment, les volumes sont différents et on comprend pourquoi. Donc, c'est vraiment notre défi de demain matin. Et ça, il va falloir le faire collectivement, parce qu'on ne peut pas faire un terminal tout seul. D'abord, nous, transporteurs, ce n'est pas notre métier. Je vous avoue que, moi, vous savez qu'on a un projet important. Je découvre ce métier qui est excessivement compliqué. Et moi, l'appel que je lance à tous mes confrères, c'est qu'il faut le faire ensemble, collectivement et rapidement. Et là, je lance aussi un appel à SNCF Réseau pour que rapidement, les terminaux actuels, qui sont un potentiel très important, qu'on peut améliorer, rendre beaucoup plus performants, il faut le faire rapidement. Je vous rappelle que notre objectif, il est limité dans le temps, le ministre l'a dit, 2020-2030. 2030, c'est demain matin. Demain matin, nous sommes en 2022. Un terminal, pour le construire, si on part ex nihilo, il faut 5-6 ans. Donc il va falloir moderniser rapidement et ensemble, nous, tous les opérateurs, et je vais dire collectivement, parce que l'urgence est là, sinon on va rater notre pari, on va rater notre responsabilité que nous avons pris par rapport au gouvernement de multiplier par 2, voire par 3, le transport combiné. L'enjeu est important.
Éric Champérol, il faut les moderniser d'urgence, ces terminaux?
Oui, je crois un peu plus dans l'initiative privée là-dessus, mais effectivement, on fait un constat. On doit être un des pays les moins concentrés en termes de terminaux, c'est même une certitude. Et c'est le seul endroit où les privés n'investissent pas dans les terminaux. Peut-être se poser cette question-là, se dire à Anvers, ça fonctionne. En Pologne, ça fonctionne de manière formidable avec un investissement privé à hauteur de plus de 50%. Et en France, où le privé n'investit pas, il n'y a pas de terminaux. Donc je crois plutôt à cette solution-là et à dire il faut que chacun individuellement on s'arc-boute à investir, il faut que Réseau, bien entendu, puisse libérer des espaces en branchée, mais le reste, c'est le rôle des opérateurs. Voilà, il faut aller très vite. Si les espaces sont libérés, nous, on a les moyens de construire des terminaux de manière autonome, bien sûr.
À Perpignan, il y a des espaces disponibles, Éric Gilbert?
Sur le terminal, nous avons un peu d'espace disponible à l'intérieur, oui, avec une partie qui est en friche pour le moment. Notre souci sur ce terminal, c'est d'avoir la nécessité d'engager des investissements aujourd'hui que les actionnaires sont prêts à financer au moins en partie, surtout si l'État et l'Europe en met un petit bout en complément. Notre difficulté, c'est d'arriver à trouver un accord de l'utilisation du terminal de longue durée. Hein, jusque
longue durée, ça veut dire quoi pour vous?
10-15 ans minimum, avec le propriétaire du sol qui est SNCF Réseau.
Alors, on y arrive. Paul Mazzato, SNCF Réseau. J'avais un peu fait la préparation du dossier. Donc, premier thème de cette table ronde, les terminaux. La demande est très claire. Hein. Plus de terminaux, des terminaux ouverts, de la visibilité sur le long terme pour ceux qui voudraient investir sur ces terminaux. Quelle est votre réponse au sein du gestionnaire d'infrastructure?
Quand j'écoute toutes les personnes qui ont pris la parole avant moi, je pense que SNCF Réseau partage une grande partie à la fois de vos constats et de vos appels. D'abord, le constat sur la croissance est assez frappant. Hein. Je rappelle qu'en Europe, le transport combiné a vu ses volumes multipliés par deux en 10 ans. Ça, c'est le passé. Et avec tout ce qui a été déjà dit depuis ce matin sur les vents favorables, on peut imaginer que la croissance sera au moins aussi forte dans les 10 ans qui arrivent et peut-être même beaucoup plus forte. Donc ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Le deuxième point sur lequel nous sommes d'accord également, c'est sur le fait d'avoir une action qui soit très équilibrée entre l'augmentation de la capacité en ligne, les sillons, et l'augmentation de la capacité dans les terminaux. L'erreur serait de se concentrer sur un de ces deux aspects et non pas sur les deux en même temps. Une victoire d'un côté serait inutile si elle n'est pas accompagnée d'une victoire de l'autre côté. Et je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point également. Il faut travailler sur les deux points ensemble. Le troisième point sur lequel je suis tout à fait en ligne avec les précédents orateurs, c'est celui d'une forme d'urgence. Urgence parce que la croissance est là. Elle n'a pas été affectée par la crise Covid. Nous avons eu des croissances même l'année dernière. Donc on doit se préparer à une augmentation très rapide. Urgence aussi parce que nous avons une occasion financière qui ne se présentera peut-être pas de manière aussi claire que celle que nous avons aujourd'hui. Et là, pour moi, tout se joue dans les 12 à 18 mois qui arrivent. Nous avons ce plan de relance du fret ferroviaire et l'État est très très clair. Il veut engager sa part au plus tard le 31 décembre 2022. Donc nous devons avoir nos demandes de financement, nos tours de table, puisque vous le savez, le principe du plan de relance ferroviaire, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui fait l'objet de cofinancement. Tout cela doit être prêt avant le 31 décembre 2022. De la même manière, vous avez fait référence, Ben, à l'application de l'Europe. Il y a des appels à projets qui sont assez nombreux dans les trimestres qui arrivent. Il y en a un qui est en cours, il y en aura un autre dans un an. Ça sera le premier ou peut-être le deuxième, mais ça ne sera pas au-delà. Donc là aussi, le calendrier est exactement le même. Pour faire simple, tout doit être bouclé d'ici le 31 décembre 2022. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut que nous investissions dans la capacité collectivement, avec des réflexions qui concernent à la fois les terminaux existants, y compris ceux de SNCF Réseau, et puis des plateformes qui pourraient être à créer. Et nous partageons aussi le point de vue qui a été émis à plusieurs reprises. Il faut qu'il y ait une nouvelle plateforme et sans doute plutôt des plateformes privées.
Donc avec des modèles revus.
Voilà, avec des modèles revus. Alors sur les terminaux existants, et là je vais parler plus spécialement terminaux de SNCF Réseau, nous sommes conscients qu'il y a des investissements qui sont nécessaires, ne serait-ce qu'à cause des questions de capacité, mais également parce que il y a des besoins de régénération, y compris d'ailleurs sur la partie routière de ces terminaux. mais il y a également des choses qu'on peut plus qualifier de développement, de nouveaux accès, des accès plus faciles pour les trains longs. Et donc, notre objectif, c'est de demander des financements pour obtenir la possibilité de faire ces investissements, ce qui suppose qu'on trouve un accord collectif avec, pour faire simple, l'État, les collectivités locales et l'Europe.
C'est ça, parfois, qui prend du temps. Parce que,
oui, c'est ça.
Et
c'est...
Vous parlez d'une urgence à 12 ou 18 mois. Et souvent, quand on entre dans des discussions tri ou quadripartites, ça prend du temps, les collectivités locales, l'État, etc. Comment vous allez faire pour accélérer? Parce que là, sur la table, il y a l'urgence qui est posée, Jean-Claude Brunier.
Il manque les privés. Là. Et, oui. Il manque, vous privez, si c'est ce qu'il y a de se dire, d'un partenaire important, c'est les opérateurs. Les opérateurs sont en train, ont fait leur plan de marche. On a des projets à 3 ans devant nous de développement très importants. Et je pense que les opérateurs sont prêts, et se le font déjà, mais il faut l'accélérer et l'amplifier, à investir auprès de vous. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus rapide. Et ça nous évitera certains modèles que nous avons connus il y a quelques décennies, où la SNCF, qui à l'époque était à la manœuvre pour la totalité, faisait un terminal qui était abandonné par les privés, par les opérateurs, parce que ça n'allait plus, il y avait d'autres marchés, et qu'il n'était pas mouillé, il n'était pas dans le business. Aujourd'hui, vous vous privez, c'est quand vous aurez les privés dans les terminaux avec vous pour investir, ben ils resteront, ils le développeront. Et ça, il ne faut pas le rater. Embarquez-nous avec vous.
Pour être clair, plus il y a de bonne volonté, plus il y a de financeurs, plus on a de chances d'y arriver avec cette difficulté qu'il faut boucler les tours de table. En tout cas, pour ce qui concerne SNCF Réseau, nous sommes disponibles pour essayer à la fois de faciliter l'obtention des tours de table. Et je pense en particulier à la question des financements européens. Nous avons une grande expertise dans l'obtention de financements européens. Je pense qu'en France, on est l'entité qui collecte le plus de financements européens dans toute l'économie. Donc on sait faire cela et on peut vous aider, ou on peut aider tous ceux qui ont des idées pour le développement d'un terminal à obtenir ces financements et plus généralement à obtenir les tours de table. Mais je voulais quand même dire aussi un mot à propos des nouveaux terminaux. C'est entendu, il y a besoin de nouveaux terminaux. Et de ce point de vue, j'ai deux réflexions que je souhaiterais partager avec vous. La première, c'est qu'il est certainement efficace, plus efficace, et je pense que ça va dans le sens de ce que vient de dire M. Brunier, que la plupart de ces terminaux, peut-être même tous, soient gérés par des exploitants privés. Ça ne veut pas dire que SNCF Réseau n'a rien à faire dans la création, dans les réflexions, dans la conception de ces terminaux. Nous sommes là pour aider tous ceux qui seraient tentés par l'expérience d'un terminal privé, pour faciliter la naissance des terminaux privés. Concrètement, il s'agit de réflexions sur les installations terminales embranchées qui permettent de donner un accès au réseau. Il s'agit de travaux sur les sillons. Il s'agit aussi de conseils sur l'avenir de la ligne qui est la plus proche du terminal en question. Donc nous appelons à un dialogue constructif avec toutes les bonnes volontés en matière de création de terminaux privés. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que SNCF Réseau travaille actuellement avec le GNTC pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, une sorte de stratégie, de feuille de route 2030 sur ce que pourrait être le bon réseau de plateformes multimodales et de chantiers de transport combinés en France. Ce doit être une combinaison de réflexions nationales, mais qui doivent aussi tenir compte de réflexions plus régionales. On voit bien les collectivités locales, les régions sont de plus en plus intéressées par ce genre de sujet et veulent être partie prenante dans ces réflexions d'avenir.
Merci beaucoup. Un point de détail, mais c'est de ça dont on parle aussi ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à revoir des conventions d'occupation temporaire, à revoir leur durée, à revoir la façon dont elles sont conçues, justement pour associer davantage les différents partenaires à l'exploitation de ces terminaux et à leur durabilité?
Alors, ce n'est pas la première fois que nous entendons cet appel pour une durée plus longue des différentes conventions, notamment de mise à disposition. 5 ans, c'est considéré comme trop peu pour pouvoir investir. Il faut de la visibilité. Bon, nous sommes ouverts à cette discussion. Nous avons d'ailleurs des discussions en cours à ce sujet. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à 10 ans, 15 ans? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire. Il y a des...
Monsieur Benel parle de 25 ans. Vous avez des exemples en Belgique de 25 ans?
Bah oui, parce que autrement, si tu dois faire des investissements, on a fait 30 millions d'euros, okay, on a reçu 9 millions, mais ça reste 21 millions d'euros. Tu ne vas pas mettre sur 10 ans, parce qu'à ce moment-là, tu perds l'argent. Tu ne vas jamais regagner. Alors, 25 ans, pour moi, c'est le minimum.
Alors, il se trouve que votre président a quelques références belges. Est-ce que ça peut aider?
Alors, une fois encore, nous sommes ouverts pour travailler sur le sujet. Nous travaillons déjà sur le sujet. Il faut que toutes les considérations juridiques, notamment en matière de respect du droit de la concurrence, toutes les considérations juridiques soient bien prises en compte, notamment pour le respect du droit de la concurrence. Mais sur le principe d'essayer d'avancer dans ce sens, nous sommes tout à fait d'accord.
Alors, Éric Gilbert, il n'y a pas que les terminaux dans la vie, il y a les emprises ferroviaires aussi au sens large, mais vous vouliez intervenir sur cette question précise?
Oui, je voulais dire qu'on a tendance à dire 10 ou 15 ans parce qu'on a peur d'être effrayant. Mais c'est vrai que la réalité, c'est plutôt 20 ou 25 ans quand on parle d'investissement au-delà de 10 millions d'euros. Comme monsieur Trente, 10 ans, c'est insuffisant. Après, je voulais juste me permettre de dire une chose, c'est que dans ce dialogue avec SNCF Réseau et avec l'État et avec les gestionnaires et les financeurs, il ne faut pas oublier 3 temporalités. Le court terme, faire un terminal sur une installation ancienne inutilisée depuis 15 ans ou plus, avec juste un rich taker et 2-3 personnes, ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça peut être décidé rapidement. Remettre à niveau une partie des terminaux anciens comme le nôtre, où on veut mettre où les actionnaires, encore une fois, veulent mettre de l'argent, ça doit se décider vite. Voilà, c'est pas non plus du moyen terme, quoi. Puis après, il y a le moyen terme et le long terme pour les sillons, pour des installations plus nouvelles.
Pour avoir visité récemment un terminal, j'ai été étonné de certaines vétustés des lieux, ne serait-ce que, par exemple, des conditions d'accueil des chauffeurs routiers, etc. Enfin, parfois, c'est un peu le Moyen Âge.
Et oui, une des choses qui me tient à cœur, c'est donc... moi, je représente une entreprise de manutention. Hein. Je me suis d'ailleurs habillé pour bien vous montrer que je suis un manutentionnaire. Au-delà de la plaisanterie, un terminal, c'est fait pour décharger et recharger des trains. Décharger et recharger, accessoirement stocker. C'est aussi un des services qu'offre le transport combiné aux transporteurs routiers. Ce que je veux dire par là, c'est que les trains, quand ils sont sur le terminal, une fois qu'ils sont déchargés et rechargés, ou déchargés en attente de rechargement, doivent être à l'extérieur du terminal.
Et dans les emprises ferroviaires de la gare, par exemple.
Et dans les gares de marchandises, il y a beaucoup de voies ferrées qui semblent en apparence inutilisées, voire désaffectées. Et je pense que c'est aussi un des moyens de développer le transport combiné, c'est d'offrir la possibilité de stocker les trains ou les wagons ou les coupons de train à l'extérieur de la gare. Et pour des périodes courtes, gratuitement, parce que si on fait la comparaison avec le transport routier, les transporteurs routiers qui circulent sur l'autoroute ont la possibilité de garer leur camion pour des périodes réduites gratuitement, sans surveillance. Et il faut que les opérateurs de transport combiné puissent garer leur train, me semble-t-il, dans les gares, gracieusement, puisque c'est des wagons qui alimentent les trains, les sillons et l'activité.
Paul Mazzato, vous êtes favorable à ce genre de disposition qui facilite la vie de tous les jours?
Oui, quand je parlais tout à l'heure d'une feuille de route, je crois qu'il faut bien que l'on ait ce point en tête. Il faut qu'on ait une combinaison assez astucieuse, peut-être de terminaux qui sont plus dédiés à la question de la rotation des boîtes rapides, et qui n'ont pas forcément des capacités de stockage illimitées, et d'autres qui sont peut-être plus concentrés, moins nombreux, ou qui sont un petit peu à l'écart par rapport à la première catégorie, qui peuvent jouer un rôle plus important de stockage. Donc cette logique un peu de segmentation, de spécialisation, est quelque chose que nous partageons également.
Alors, du point de vue organisationnel, vous portez le projet fret au sein de SNCF Réseau. Et parallèlement, Jean-Pierre Farandou, sur l'ensemble du projet SNCF a accentué la territorialisation, hein, une sorte de décentralisation des responsabilités. Est-ce que c'est vrai aussi sur le fret ? Est-ce que vous avez adopté une organisation qui vous permet aussi de déléguer un certain nombre de décisions au plus proche du terrain pour accélérer les choses ? Comment vous êtes organisé au sein du projet fret à réseau ?
Bien, c'est vraiment dans une logique de décentralisation. Je peux l'illustrer par un exemple très concret. Nous avons eu un séminaire tout récemment de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet de développement du fret ferroviaire chez SNCF Réseau. Et nous étions 50 personnes. En réalité, s'il n'y avait pas eu les contraintes Covid, je pense que nous aurions été 100 personnes. Et dans ce public-là de personnes qui sont au sein de SNCF Réseau, une grosse majorité d'entre eux n'étaient pas en centrale, mais plutôt des personnes qui venaient d'un peu partout sur le territoire et qui sont concernées par diverses fonctions. Toutes les fonctions commerciales de dialogue avec les opérateurs, avec les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transport combiné, de dialogue avec les autorités, l'État, les collectivités locales, mais également toutes les fonctions opérationnelles. Je pense en particulier aux personnes qui sont en charge des circulations et qui jouent un rôle majeur dans l'exploitation des trains en ligne, mais également en connexion avec les terminaux, dans les voies de service, dans les différents faisceaux. Et puis, enfin, tous ceux qui sont responsables de la maintenance des voies, de tout ce qui est travaux, qui ont un rôle parce que, pour ces développements que nous appelons de nos voeux, qui vont s'accélérer avec, je l'espère, des financements que nous allons réussir à obtenir via le plan de relance et via la Commission européenne, il va falloir des ressources travaux, des ressources d'ingénierie. Et le paradoxe, c'est que pour moi, c'est presque, je ne dirais pas l'inquiétude, mais le sujet numéro un. Nous avons en quelque sorte temporairement au moins réduit le problème financier. Il faut que nous parvenions à mobiliser suffisamment de ressources dans un laps de temps qui est très court, ce qui n'est pas très facile, notamment pour les sujets de signalisation qui sont assez déterminants pour certains développements en lien avec le fret ferroviaire en général, le transport combiné en particulier. Je pense par exemple à tout ce qui est destiné à faciliter la circulation de trains de 850 mètres ou l'accès de trains de 850 mètres dans les terminaux. Il faut de l'expertise en matière de signalisation et cette ressource est rare aujourd'hui. Donc, comme vous le constatez, avec ces différentes casquettes commerciales, exploitation, maintenant ces travaux, c'est toute l'entreprise et très largement à l'échelon régional qui est mobilisée pour ce projet.
Donc, ce que vous nous dites, vous êtes aussi, vous, menacé de surchauffe en matière d'effectifs et de ressources.
Oui, ce n'est pas, j'allais dire, le monopole du transport routier, des chauffeurs routiers. On a un petit sujet en la matière que nous parvenons à gérer, mais qui demande beaucoup d'attention.
Oui, parce que certains retours font état de délais importants, notamment en matière de développement et d'investissement.
Oui, alors ce qui nous sauve ici, c'est que précisément l'État comme la Commission européenne nous donne de la visibilité au moins jusqu'en 2024, voire 2025. Donc on a quand même quelques années pour bien s'organiser, pour faire tous ces développements.
Alors les terminaux, c'est important, mais il n'y a pas que les terminaux dans la vie. Hein. Il y a aussi les sillons, il y a aussi les circulations. On peut peut-être faire un point sur cet aspect-là, puisqu'on parle aujourd'hui du plan de relance. Quelle est votre évaluation, à vous qui êtes opérateur sur le terrain, Jean-Claude Brunier ?
Oui. Alors là aussi, je crois qu'on vient de le voir, la messe est dite, pour les terminaux, il faut faire vite et il faut faire collectivement. Les terminaux, c'est très bien, mais il faut aussi des sillons. Et là aussi, on est un peu dans la même problématique, avec une échéance assez courte pour finir, 2030. Et sur le terrain, dans la pratique, nous sommes fin 2021, peu d'améliorations au niveau des SNCF Réseau, si, quelques améliorations, des prémices. On a supprimé on est en train de supprimer les autorisations de transport exceptionnel qui nous, passez-moi l'expression, pourrissaient la vie au niveau de l'exploitation de nos trains. C'est très bien, mais le reste, on n'a pas beaucoup de lisibilité. Vous parliez de la circulation des trains longs. La qualité des sillons, le service 2021 a été très difficile et chaotique, on sait pourquoi, la crise sanitaire, le changement de le SIPH, etc. On n'y revient pas dessus. 2022, c'est pas terrible entre nous, on va pas se le cacher. On a beaucoup de difficultés, on a des sillons, le retour n'est pas très bon dans l'ensemble. Alors, nous avons assisté à la présentation de votre plan d'action sur le plan commercial, qui est très intéressant. Le suivi de 50 trains sous...
50 trains cibles.
Bravo, c'est très bien. Enfin, c'est du concret. Ça, c'est pour la circulation. Il faudrait des résultats un peu rapides, une amélioration des sillons. Pourquoi ? Parce que nos clients, et c'est tout à fait légitime, on voit qu'il y a des crédits de 200 millions d'euros pour améliorer la protection des travaux par rapport aux sillons. Et on voit pas trop de concret. Donc, moi, le message que je vous passe, évidemment, la machine est lourde, on le sait très bien, il n'y a pas de miracle dans tout ça. Il faut faire vite et avoir quelques résultats concrets. Moi, dans mon entreprise, j'ai un point fort. Seul le résultat compte. Et le résultat encore est un peu poussif. Donc, voilà, si vous pouvez aller plus vite, ça nous arrangerait bien. Voilà, et on le fera, et j'insiste là-dessus, collectivement. Seul, on ne peut rien faire, seul, vous ne pouvez rien faire. Et ce qu'attendent les chargeurs, il faut le leur donner. Ce qu'attendent nos concitoyens pour l'environnement, la décarbonation, c'est maintenant qu'il faut répondre. Voilà mon message.
Vous nous dites quelques mots, Paul Mazzato, de ce 50 trains, de ce plan 50 trains. Pardon. Et après, je vous redonne la parole.
Oui, alors c'est la première initiative que nous prenons pour essayer d'améliorer vite la qualité de service pour le fret ferroviaire en général et plus spécialement le transport combiné. Donc nous avons identifié avec l'ensemble du marché une cible de 50 trains long parcours. Long parcours, ça veut dire au moins 500 km, mais la plupart font beaucoup plus que cela. Et notre objectif, c'est d'améliorer substantiellement la ponctualité terminus de ces trains et de le faire en nous focalisant en premier lieu sur la ponctualité au départ. En fait, l'histoire est très simple. Vous connaissez les démarches qui ont été réalisées par le groupe SNCF et notamment par SNCF Réseau dans le domaine des voyageurs, le programme dit H00, qui a montré qu'en se concentrant sur le départ à l'heure des trains, on arrive à des progrès spectaculaires, non seulement sur le taux de trains qui partent à l'heure, de trains de voyageurs, mais également, de manière parfaitement corrélée, le taux de trains qui arrivent à l'heure à l'arrivée, l'un engendrant l'autre. Donc l'idée, c'est de faire la même chose dans le domaine du fret, en se focalisant sur les trains long parcours, qui sont ceux qui souffrent le plus lorsque le train part avec du retard, parce que ce retard a toutes les chances de s'accentuer pendant tout le déplacement, et ce déplacement est très long. Donc nous avons identifié avec le marché 50 trains long parcours, et nous avons identifié 6 sites expéditeurs sur lesquels nous allons nous concentrer, et sur ces 6 sites, il y en a 5 qui sont liés au transport combiné, en avant-première je peux vous les citer. Il s'agit de Perpignan-Saint-Charles, il s'agit d'Avignon, il s'agit de Valenton, il s'agit de Vénissieux et il s'agit de Dourges. Donc nous lançons ce soir, il y a une première réunion ce soir, mais il y en aura bien d'autres, une initiative qui vise à rassembler toutes les personnes qui sont concernées par ces 6 sites expéditeurs et notamment par les 5 sites de transport combiné, qu'ils soient exploitants, qu'ils soient opérateurs de transport combiné, qu'ils soient entreprises ferroviaires et qu'ils soient bien évidemment gestionnaires d'infrastructures, pour essayer de mettre en place des plans, une mobilisation visant à se concentrer collectivement sur le départ des trains à l'heure. Nous avons réalisé une première expérience cet été qui a donné des résultats absolument spectaculaires en quelques mois.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des taux de départ... Des taux de ponctualité au départ qui étaient de l'ordre de 10% en mai et qui sont passés à 90% en août, et des chiffres presque aussi bons pour la ponctualité à l'arrivée à 800 km de là. De mémoire, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais c'est une ponctualité à l'arrivée qui est passée, pour la ponctualité à 5 minutes, de 30% à 79%, je crois. Donc vraiment une amélioration spectaculaire en seulement 4 mois. Alors, il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup d'aspects humains dans cette démarche. Il y a aussi de l'outillage, notamment ce concept de chronogramme sur lequel nous avons acquis beaucoup d'expérience dans le domaine des voyageurs. Et donc, nous avons l'intention de déployer cela très vite pour 50 trains et nous avons l'intention de faire un retour d'expérience dès le mois d'avril prochain. Le gros avantage de tout ce qui est circulation, c'est que ça peut avoir ça peut porter des fruits, ça peut avoir des résultats concrets et visibles à brève échéance. Ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter en avril. Nous avons l'intention, si tout se passe comme nous l'espérons, d'étendre le nombre de sites concernés au-delà du mois d'avril. Pourquoi pas de commencer à travailler avec des sites expéditeurs qui ne seraient pas en France, mais qui seraient liés à des circulations qui viennent en France, tout en partant de l'étranger. Je pense par exemple à la plateforme de Bettembourg. Et donc progressivement de faire en sorte que la totalité des trains long parcours, notamment dans le Combiné, soit concernée par cette initiative.
Moi, je prends rendez-vous pour avril. Si vous voulez faire le bilan de ces 6 mois, je prends et j'en informerai tout le monde. Je suis partant pour poursuivre cette expérience. Un mot sur cette question des circulations, Éric Gilbert, Éric Jean-Pérol, Ben Bernaert. L'important, c'est de partir à l'heure pour arriver à l'heure.
Oui, mais ça commence toujours avec l'arrivée. Hein. Et si ça arrive à temps, normalement, le terminal peut laisser partir aussi à temps. Naturellement, il peut toujours passer quelque chose, mais si moi, je dois parler de chez moi, c'est 45% qui vient à temps de tous mes trains.
45% des trains qui...
Qui vient à temps prévu.
Qui vient, c'est-à-dire qui part ou qui arrive ?
Qui arrive.
45%.
45% qui arrive à temps prévu sur le site. Je redonne vers le tractionnaire 80% et après je vois qu'il y a seulement 65% qui repart à temps. Alors, ce n'est pas l'un à l'autre, mais je pense là que nous sommes tous dans un truc où on doit travailler ensemble. Ce n'est pas seulement l'infrastructure, ce n'est pas seulement le tractionnaire, c'est aussi le client final. On doit chercher des solutions et ce n'est pas le but de chercher chaque moment où je peux encore gagner une heure là-bas ou gagner une demi-heure là-bas. Non, on doit acheter quelque chose qui est raisonnable. Et oui, à la France, je ne sais pas, est-ce que maintenant on peut rouler déjà P400 partout ?
Ah ! Question un brin naïve.
Le semi-remorque, c'est quelque chose qui est en augmenté, c'est le futur. Alors, P400, ça va venir aussi le futur. Hein.
Éric Gilbert, on va suivre notamment un train dans les mois à venir très, très sensible, le train des primeurs. C'est important pour vous, cette question de la ponctualité ?
Oui, bien sûr. Je voulais dire à peu près la même chose. Je pense que c'est très important effectivement de s'occuper de l'heure de départ des trains, puisqu'on sait qu'un train qui part en retard a peu de chances d'arriver à l'heure. Mais en tout cas pour un terminal, et j'ai presque les mêmes chiffres, chez nous 60% des trains sont mis à disposition du terminal en retard. Et 95% des trains sont rendus par le terminal à l'heure. Donc ça veut dire simplement qu'on engage des moyens humains et techniques pour pouvoir compenser et gérer les trains dans des délais très rapides. Donc ça c'est vraiment un point important. Parce que ça a un coût important. Hein, et si on était
pas... vous compensez au sein du terminal, vous compensez les défauts de ponctualité d'arrivée ?
Oui, absolument. Et ça a un autre impact qu'il ne faut surtout pas oublier, parce qu'encore une fois, moi, je pense aux transporteurs routiers. Il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui viennent chercher des caisses ou des semi-remorques, qui attendent et qui ratent leur rendez-vous de livraison.
Ça a des conséquences au-delà même des circulations.
Absolument, et effectivement, je pense que vous avez raison, M. Mazzato, c'est un point qu'on peut régler à plusieurs, mais c'est un point très très important. Quoi. Très très important. S'occuper de l'heure de départ du train, bien sûr, mais l'important, c'est l'heure d'arrivée, parce que derrière, il y a des chauffeurs qui attendent.
Éric Jean-Pérol, un mot sur cette question ?
Non, je pense que c'est une excellente initiative d'attaquer concrètement sur les 50 premières relations, donc on va retrouver nos lunettes. C'est, on va se dire, des fois, ça ne part pas parce que j'ai plus assez de place sur le chantier, j'ai pas assez de capacité terminalistique. On va retrouver tous ces problèmes, on va suivre le fil et trouver l'arbre de cause pour pouvoir le traiter. Donc, c'est une bonne initiative, c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet.
Et effectivement, c'est une temporalité réduite puisque ça n'est pas un débriefing en 2024, un REX en 2028, c'est avril 2022. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. On a fait le tour de la question dans le temps qui nous était imparti. Je crois qu'on peut remercier chaque intervenant pour leur franchise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Et comme il se doit maintenant, avant ce petit jingle... Je vous demande d'accueillir le président du GNTC, Ivan Sapelinski, pour la conclusion de cette matinée d'échange.
Bien, merci. Merci, Gilles. Et surtout, merci à vous tous de vous être déplacés, d'avoir joué le rôle du virtuel, l'avoir laissé à la maison plutôt, et d'avoir joué le rôle du présentiel pour être avec nous aujourd'hui dans cette matinée. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Bonjour à tous, donc, à nos adhérents, à nos partenaires, mesdames, messieurs. Une forte affluence aujourd'hui qui démontre que le secteur, s'il en était besoin et qui a été illustré par ces débats, amène beaucoup de réflexions, mais aussi des décisions. Il s'est passé deux ans depuis le dernier rendez-vous présentiel que nous avons tenu d'ailleurs dans cette salle, avec Dominique de Normandie à ce pupitre que je salue, notre président du GNTC, à qui j'ai succédé avec la lourde tâche d'être à la hauteur. Deux ans qui n'ont pas été uniquement une période de transition, une période de confinement. Il y a eu vraiment deux ans d'action dans notre activité. Et j'illustre par rapport aux propos que Dominique avait dans son discours de clôture ce jour-là en disant que le transport combiné, c'est bien le transport de marchandises du futur. J'ai la certitude aujourd'hui, par rapport au débat, par rapport à tout ce que nous allons évoquer, que le transport combiné n'est plus le transport de marchandises du futur, c'est celui du présent. Et donc cette réflexion sur ces deux ans, elle s'est accompagnée de beaucoup d'actions en temps masqué. Et un des exemples qui m'a frappé, moi, que je tiens à mettre véritablement au devant de la scène, c'est celui du fluvial. On a souhaité aujourd'hui, au sein de cette assemblée, démarrer notre présentation par le fluvial, qui offre des possibilités, on l'a vu, qui donne aujourd'hui des solutions et qui, surtout, pendant ces deux ans, a travaillé avec des concertations professionnelles entre le service fluvial de la DGITM, l'ensemble des acteurs privé, public du secteur, a amené à la signature en juillet 2021 avec Jean-Baptiste Gébari d'un engagement pour la croissance verte avec le fluvial, avec E2F et l'ensemble des opérateurs. Ce travail, il a fallu le mener, c'est deux ans de travail, c'est deux ans de concertation, c'est deux ans d'échange et qui arrive sur du concret. Car ces engagements de l'ensemble des professionnels de la voie d'eau et des pouvoirs publics ancre la volonté du secteur de devenir la référence des transports écologiques en réduisant de 20% les émissions de gaz à effet de serre du fluvial. Je suis véritablement impressionné par ces travaux, par ces engagements, par ces concertations, car il ne peut y avoir d'accord que s'il n'y a échange préalable, dialogue entre les interlocuteurs concernés et la signature de cet accord qui doit voir d'ici 10 ans le verdissement des flottes et accompagner la transition énergétique du secteur. Et pour nous, un exemple, sur un segment du transport combiné qui n'est peut-être pas en pourcentage le plus représentatif, mais dont je tiens à souligner la vision d'avenir et très certainement l'implication sur les flux dans les années qui viennent. Alors, ces deux ans, on les a mis également à contribution dans le rail-route pour... pas uniquement des réflexions, mais également des actions. Ça a été cité, en 2019, la filière ferroviaire s'est réunie, s'est fédérée et s'est alliée selon un principe connu, que seul on va plus vite, bien évidemment, mais Ensemble, on va plus loin. Et cette alliance a permis de constituer une association, 4F, qui a été citée à plusieurs reprises, Fret Ferroviaire Français pour le Futur. Alors, bien évidemment, le GNTC a été présent activement dans ces 2 ans de réflexion, mais pas tout seul, aux côtés des principales entreprises de transport ferroviaire de marchandises, de l'Association française du rail, l'AFRA, de celle des détenteurs de wagons, AFWP, de l'association, bien sûr, OFP, et avec la présence, bien évidemment, de SNCF Réseau, qui a coopéré activement à ces travaux, et encore une fois, bien évidemment, l'AUTF, l'Association des utilisateurs de transporteurs de fret, comme partenaire. Ce travail mené par cette alliance, il s'est posé déjà sur les chiffres existants, les chiffres déterminants du secteur à cette époque, qui ont été évoqués également, et un travail impressionnant a été réalisé pour construire un plan de développement massif pour le fret ferroviaire. Le constat, c'est la part modale du fret ferroviaire en France, 9%, ça a été dit à plusieurs reprises. Il est important de signaler que nos voisins directs, l'Italie, en est à 14%, l'Allemagne, 18%, l'Autriche, 32%, et la Suisse, 35%. Les pays cités ne sont pas des pays qui mènent des projets de court terme. Ils ont des visions de long terme. Ce sont des pays sérieux et ils doivent nous servir d'exemple. Aujourd'hui, la part à 9% en France donc, est accolée à 2% au fluvial et 89% au routier, ce qui fait 100%. Il est important de signaler que dans la part routière, c'est 89%, 34%, 54% pardon, sont sous pavillon français et 35% en pavillon étranger. Ça donne aussi une vision de ce que demain, le transport combiné, expert sur le longue distance, peut amener comme solution sur l'avenir du paquet mobilité, mais sur également les problématiques qui sont aujourd'hui plus uniquement évanescentes, mais des vraies réalités de chauffeurs routiers, puisqu'il en manque près de 50 000 à peu près dans les 2 ans pour tenir nos engagements en termes de chargement. Ce plan, pour revenir donc sur le travail de 4F, a marqué une double ambition dans ses objectifs. La première, ça a été cité par notre ministre, c'est doubler la part de marché ferroviaire d'ici 2030. La deuxième, c'est que pour doubler cette part de marché, on s'appuie sur un triplement de l'activité du combiné rail-route sur la même période. Nous sommes donc directement concernés. Le combiné est donc bien reconnu à travers ce plan, à travers ses objectifs, comme le segment de marché avec le plus fort potentiel de croissance. Alors ce travail s'est traduit également par des propositions très concrètes qui ont fait l'objet de la remise d'un dossier, d'un plan à Jean-Baptiste Gébari en juin 2020, très détaillé sur les moyens, sur les besoins, sur les financements nécessaires, sur les objectifs et sur les échéances. Car on parle d'échéance, on parle de moyen terme, on parle surtout de court terme. Et bien évidemment, à travers cela, le transport combiné a traduit ces chiffres et ça nous amène à des objectifs concrets qui, pour réaliser ces objectifs que nous souhaitons, que nous mettons tout en œuvre pour tenir, ce soit à terme 1,2 million d'UTI supplémentaires à transférer de la route au rail qui amèneront très naturellement 1 milliard de kilomètres camions évités, ainsi que, comme le citait M. Thirion tout à l'heure d'Altermine, toutes les externalités négatives qui ne sont pas aujourd'hui chiffrées, mais qui sont existantes et qui accompagnent chaque kilomètre. On parle également, très rapidement sur ces chiffres, 1 million de tonnes de CO2 économisées, ce qui correspond aussi non seulement à des objectifs collectifs, mais à des responsabilités individuelles. Je crois qu'aujourd'hui, dans la réflexion qui a accompagné ces 2 ans, que ce soit au sein de 4F ou au sein de d'autres groupements, la responsabilité collective a été nourrie par le fait que chacun soit rendu compte que nous sommes dans une période où on ne peut plus nier certaines évidences. Et le rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques semaines, quelques mois, nous a mis en face de nous les véritables enjeux que nous devions avoir à titre individuel, collectif, professionnel. Pour réaliser ces objectifs que nous nous sommes donnés et que nous avons transmis à notre ministère de tutelle, Bien évidemment, nous nécessitons, et ça a été cité, un développement de la capacité en sillon et de la qualité du service du ferroviaire. Nous avons besoin également d'un développement et de la modernisation du réseau de terminaux du transport combiné rail-route qui accueille aujourd'hui les trains et les camions. Et ce sont 15 terminaux supplémentaires qui ont été chiffrés comme nécessaires pour continuer le maillage au niveau national et avec les 35 terminaux existants, nous amener aux 50 terminaux nécessaires pour absorber les volumes prévus. Il était fait mention dans ce rapport, dans ce plan 4F, des aides au développement à l'exploitation, bien évidemment, et nous avons eu une grande partie des réponses à ce jour. Il est fait également mention dans ce plan 4F d'une vision qui ne soit pas uniquement franco-française, même si son nom le peut le laisser penser, et dans la réflexion, entre autres, sur les gabarits, ça a été brillamment illustré par la dernière table ronde, le P400 est bien sûr à envisager, à plus qu'à envisager, à maîtriser, à mettre en œuvre, de manière à ce que la carte de France du transport combiné ne soit plus aussi blanche et accepte aussi bien dans ses relations de pays à pays au niveau européen qu'en intra, des solutions comme le P400, comme ça a été souligné discrètement mais fermement par l'interlocuteur de la table précédente. Cette ouverture pour l'Europe est indispensable. On ne peut pas, encore une fois, travailler uniquement sur un objectif franco-français et ne pas se préoccuper de l'existence des flux de port à port qui doivent nous amener forcément à des réflexions sur d'autres lignes. Les trains longs et lourds, ça, ce sont des choses également qui ont été évoquées tout à l'heure. Ce sont des solutions plutôt rapides et faciles à mettre en place qui peuvent accélérer notre développement et la réponse attendue par le marché. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, et c'est en filigrane dans toutes les actions, une vision incitative à la décarbonation. On ne peut pas aujourd'hui négliger que, et ça a été mentionné, les économies de tonnes de CO2 qu'engendre un transport par le rail ne soient pas valorisées. Alors, suite à cette remise de plans, de propositions, en juin 2020, la réponse de l'institutionnel a été très rapide. Là où, en général, on souligne que la temporalité est différente entre celle des entreprises qui a un business plan à 3 ans et l'institutionnel qui se porte entre 20 et 30, il est à souligner, il est à mentionner, il est à féliciter que, en juillet 2020, Jean Castex visitait le terminal de Valenton et annonçait les premiers soutiens financiers au secteur au sortir de la crise Covid, pendant laquelle la filière du transport combiné a été déterminante dans l'acheminement et la livraison des produits de l'industrie et de la logistique. Et Jean Castex, avec enthousiasme, a déclaré que le transport combiné, comme Dominique Denormandie, il a mentionné que le transport de combiné, c'était l'avenir. Un an a passé avec de multiples échanges. Je tiens à souligner que le dialogue existe aujourd'hui avec les institutions, avec la DGITM, avec le ministère du Transport, avec les différents intervenants sans lesquels ce plan ne serait que lettre morte. Et il est important de dire qu'encore une fois, même si nous ne sommes pas dans la même temporalité, même si les interlocuteurs ont quelquefois des visions différentes, le dialogue existe, la concertation existe. Et si nous avons aujourd'hui une stratégie qui a été publiée avec 72 mesures très largement inspirées du plan 4F, c'est parce que cette cohabitation aujourd'hui et cette manière de fonctionner ensemble est véritablement réelle. Donc la stratégie nationale, proclamée et promulguée il y a quelques jours à travers ces 72 mesures, mérite que nous saluions les engagements de l'institutionnel. Au sein du GNTC, nous avons des reproches à faire, nous savons les faire, avec courtoisie, respect, bien sûr. Mais quand il y a des félicitations à faire, je tiens véritablement à les faire aussi. Et aujourd'hui, les engagements de l'institutionnel, et on l'a vu avec l'intervention de Jean-Baptiste Gébari, sont véritablement concrets. Alors, ce sont des actes concrets avec les premiers financements, et nous remercions donc notre ministre de tutelle dans le cadre des annonces dont il nous a donné la primeur. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il l'a dit lui-même, il y a la partie financement, il y a la partie engagement. Et dans les engagements, 4F a souhaité pouvoir concrétiser ces éléments avec des indicateurs, avec des objectifs, entre les principaux acteurs, encore une fois, qui doivent et qui peuvent faire la réussite de ce plan de relance, de ce plan 4F. C'est pour cela que nous sommes impliqués au sein du GNTC à la mise en œuvre d'engagements pluriels pour ces principaux acteurs qui ont été déterminés entre 4F, ministère du Transport, SNCF Réseau bien sûr, et la UTF, de manière à constituer un pacte qui soit signé par des représentants de ces différentes institutions et qui s'engagent à travers leur signature sur des objectifs qui seraient contrôlés, suivis, et qui sont clairement ceux que nous attendons déjà depuis un moment dans la profession et qu'il va falloir faire vivre. Le premier, c'est la part modale du fret ferroviaire. Il faut que l'on puisse atteindre des volumes qui nous amènent à la réalisation de ce doublement de la part du fret ferroviaire dans les 10 ans. Il faut que l'on ait la même vision également de la part des chargeurs. Avoir une seule vision n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut connaître la part modale du fret ferroviaire projetée par les chargeurs sous 3 ans, sous 5 ans, pour nous adapter, pour prévoir les moyens, prévoir les investissements, prévoir les actions. Il faut aussi que l'on ait un suivi des indicateurs, et c'est clairement noté, de qualité concernant le fret lié au contrat de performance État-SNCF Réseau. Nous sommes absolument dépendants de notre gestionnaire d'infrastructure. Nous connaissons les énormes investissements que celui-ci fait pour rendre demain beaucoup plus viable un réseau ferroviaire dédié au transport combiné, là où les 10 dernières années étaient plutôt tout TGV. Mais pour autant, pendant ce temps-là, nous devons acheminer nos trains et avec un taux de qualité qui doit être mesuré, contrôlé, amélioré. De la même manière, nous mesurerons le taux de satisfaction des chargeurs sur les services du fret ferroviaire, car rien ne sert de mesurer dans sa course si on ne sait pas exactement si cela satisfait le marché. Et puis, ça a été prononcé également, le taux de satisfaction des opérateurs sur les services du gestionnaire d'infrastructure sera un élément structurant. Et enfin, le taux d'engagement des investissements d'infrastructure par les différentes maîtrises d'ouvrage concernées. On a donc un panel aujourd'hui d'indicateurs, d'objectifs qui, normalement, doivent nous permettre, si l'investissement, et l'investissement sera là, des 4 signataires est à la hauteur, d'amener le gestionnaire d'infrastructure, mais également les différents acteurs de la filière ainsi que les chargeurs, à cet objectif que nous nous sommes fixés de doublement de la part ferroviaire et de triplement du combiné sous les 10 ans. Ces éléments seront bien sûr très attentivement suivis par le GNTC, vous vous en doutez. Par rapport à cela, il est toujours important aussi de dire, mais que dit le marché ? On fait des efforts, on met en place des éléments, mais au bout de tout ça, que dit le marché ? Que disent nos clients ? Que disent les chargeurs ? On sort de cette période pendant 2 ans où les échanges ont été surtout virtuels et on sait que dans une assemblée comme celle-ci, ce sont quelquefois les échanges physiques qui permettent d'avoir des informations et les échanges en off nourrissent beaucoup plus les réflexions et les pensées. Et en même temps que la reprise des éléments physiques, même il y a les premiers salons qui se sont tenus là sur ces derniers mois, les premiers salons du transport qui ont eu lieu, la SITL, le Top Transport. Et on peut constater que pendant les 2 ans de parenthèse que je citais tout à l'heure, bah, les chargeurs ont également affiné leurs réflexions. Il y a 2 éléments qui étaient aussi un peu évanescents ces dernières années, qui sont maintenant au devant de la scène et qui sont dans les différents entretiens que nous avons avec les chargeurs largement mis en avant, c'est la RSE. C'est un véritable phénomène qui est entré dans les entreprises, le sociétal en faisant largement partie, et la décarbonation. Aujourd'hui, chaque entreprise, au moins 3 sur 4, d'après les gens que nous avons vus au cours de ces différents échanges, à une réflexion sur la RSE et la décarbonation. Et il est bien évident que la décarbonation, le premier mouton noir que l'on peut pointer du doigt dans une entreprise, c'est le transport. Avant de parler du plastique sur les palettes ou d'autres choses plus, un peu plus difficiles à concrétiser. Et donc les chargeurs aujourd'hui ont ce message. Que pouvez-vous nous amener, vous, dans le transport combiné, sur nos objectifs RSE et sur nos objectifs de décarbonation ? Ils frappent à la bonne porte. Ce sont justement des éléments que nous travaillons depuis bien des années, et vous le savez. Une deuxième question importante qu'ont les chargeurs aujourd'hui, c'est la capacité à transporter tout au long de l'année les volumes qu'ils vont produire, avec bien évidemment des indices de saisonnalité. Mais c'est une inquiétude pour eux, véritablement, de savoir si ils vont trouver des entreprises routières capables d'assurer tout au long de l'année leur production, l'acheminement de leur production, de manière à ne rien perdre dans leur marché et de pouvoir servir leurs clients qui ont eux aussi aujourd'hui une vision économique qui peut amener à certains marquages différents sur les volumes. On voit aussi que par rapport à cela, cette notion des 50 000 conducteurs manquants qui a été souvent citée au cours de ces deux dernières années a fait son chemin et a fait son chemin de manière concrète. Que certains moyens paraissent effectivement manquer dans l'acheminement des marchandises aujourd'hui pour certains chargeurs et que ce n'est pas un hasard, le modèle économique des chauffeurs de l'Est est en train de se lézarder. Ce modèle économique sur lequel reposait du transport longue distance aujourd'hui a trouvé ses limites pour simplement des raisons également sociétales des pays qui déléguaient ces chauffeurs qui, parce que le niveau de vie a augmenté, parce que tout simplement ils n'ont plus envie de partir 3 mois et de vivre sur des parkings d'autoroute, eh bien ce modèle économique commence à se lézarder et forcément a une incidence en cascade sur les 50 000 chauffeurs manquants et sur les capacités des entreprises routières à produire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 34% des volumes qui circulent en France en routier sont sous pavillon étranger. La relation est donc assez rapide à faire. Et là, encore, le transport combiné amène une réponse. On est pertinent sur le longue distance. Notre règle d'or d'être supérieur à 500 km amène des contraintes dans le minima, mais ouvre les portes dans le maxima. Et aujourd'hui, au niveau européen, nous avons la capacité à pouvoir traiter ces longues distances de pays à pays, de port à port, qui sont encore confiés à des transporteurs routiers étrangers, mais qui n'assumeront sans doute pas sur un avenir très lointain. Donc, de manière globale, on peut considérer que les premières attentes des chargeurs au sortir de cette crise sanitaire sont donc en phase dans le présent avec les solutions du transport combiné rail-route. Voilà. Donc, l'actualité, les besoins en développement, tant écologique qu'industriel, croisent notre savoir-faire qui est existant depuis moult années, mais le croise au bon moment. Nous sommes là pour assurer, nous sommes là pour accompagner les besoins des chargeurs, les besoins du marché. Notre savoir-faire va permettre de le démontrer. Pour autant, même si toutes ces mesures doivent nous réjouir, on ne va pas bouder notre plaisir, il faut rester vigilant et ne pas tomber dans l'angélisme. D'un point de vue routier, principalement, nous sommes vigilants à ne pas faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et il y a 2 sujets qui sont tenus aujourd'hui par le GNTC, qui doivent supporter l'action de ces adhérents routiers. Et nous saluons le lancement en concertation avec la DGITM d'une expérimentation d'une dérogation de circulation à 46 tonnes qui va être menée dans les prochaines semaines et sur lesquelles nous serons bien évidemment attentifs. Dans le même temps, nous permettons de lancer un cri d'alerte sur le fait qu'il ne faut pas défaire ce que nous construisons et nous souhaitons attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'impact très négatif pour notre secteur des nouvelles normes en matière de tonnage du transport routier pour le transport international. Il faudra revoir ces règles, dont le GNTC a par ailleurs demandé une prorogation de mise en œuvre, de manière à ne pas pénaliser la circulation sur le pont des Rues, qui fait aussi partie de notre activité. Enfin, et c'est un point important, le GNTC souhaite toujours, et ça a été prononcé en filigrane, la mise en œuvre d'une fiscalité avantageuse pour les transporteurs routiers pratiquant le combiné, qui soit basée sur une valorisation financière de la tonne de CO2 économisée, par exemple. Récompenser plutôt que taxer reste un paramètre important si on veut dynamiser une filière qui aujourd'hui montre toutes ses capacités à avancer et son courage. Le transport combiné coche donc de facto les cases qui sont en réponse à l'attente du marché, des chargeurs, mais également des transporteurs routiers qui trouvent en partie les solutions à leurs préoccupations d'avenir. Les exemples cités, l'entreprise MGE, Philippe Birtel, en a fait la brillante démonstration. Il apparaît cependant qu'il faut continuer à perfectionner notre technique. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut être aussi du 21e siècle de manière complète. Et un axe de développement que nous devons avoir en prioritaire, dans les terminaux entre autres, c'est la digitalisation. Nous avons besoin d'informations, nous avons besoin d'informations qui nous permettent des retours d'informations, d'agiliser nos moyens, d'être plus rapides en concertation avec nos clients, de trouver des solutions lorsque des problèmes se produisent. Et en cela, la digitalisation, l'information just in time est un élément incontournable. Encore une fois, nous tenons à le souligner, la qualité d'acheminement également doit être à la hauteur de nos ambitions, sur le réseau ferré, bien sûr, et nous attendons en cela les efforts du gestionnaire d'infrastructure, pour lequel nous sommes confiants, mais je me permets également de souligner sur les moyens mis en œuvre par les entreprises ferroviaires, qui doivent être à la hauteur des enjeux de leurs clients et du marché. N'oublions pas que notre croissance, ce trois fois du transport combiné en 10 ans, ne se fera pas avec la naissance spontanée de nouveaux marchés industriels uniquement, mais repose sur un transfert de la route au rail. Et nous devons donc, en plus de nos avantages concurrentiels, déjà cités, de décarbonation, de capacité en traitement des volumes, nous donner des objectifs qualité en phase avec le marché, avec la demande raisonnée de qualité du marché. Cela a été évoqué aussi lors de la dernière table ronde. Nous sommes aussi très ambitieux dans le développement des plateformes multimodales pour que la création de sites, la réinnovation des terminaux existants et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de gestion concertée avec les pouvoirs publics et SNCF Réseau nous donnent la capacité et la visibilité à long terme. Le temps a été cité entre le moment de décision, le moment où l'on met le doigt sur la carte pour dire c'est là qu'il nous faut un terminal et le moment où un premier train rentre, c'est 5 ans. Nous avons 10 ans devant nous, donc les échéances sont courtes et les enjeux sont forts. En guise de conclusion, on ne peut que se féliciter. Aujourd'hui, quand je vois les tables rondes qui ont été menées, quand je vois les échos des différents intervenants, on peut se féliciter que l'actualité sociétale croise à beaucoup de niveaux les réponses de notre technique et l'implication de notre filière. On peut se féliciter aussi que l'institutionnel nous ait entendu, nous ait écouté et nous amène aujourd'hui des réponses concrètes. Le GNTC restera bien évidemment vigilant sur ses plans, ses objectifs, ses échéances, ainsi qu'il le fut d'ailleurs tout au long de ces années. Tout au long de ces années, parce que je tiens à le préciser, moi je prends aujourd'hui la présidence, j'ai la présidence du GNTC depuis un peu plus d'un an, et je prends vraiment la mesure des actions qui ont été menées par mes prédécesseurs à ce poste pour porter nos ambitions. Si aujourd'hui nous arrivons à ces résultats, ce n'est pas en toute humilité parce que j'en ai le mandat depuis 12 mois, c'est parce que le GNTC a brillamment travaillé, fortement travaillé au cours de ces années, pour défricher la voie à des moments très certainement beaucoup plus compliqués. Et je tiens à saluer le travail effectué par tous les présidents précédents à cette charge au GNTC, et plus particulièrement 3 personnes qui sont aujourd'hui dans la salle. Dominique de Normandie, qui m'a précédé, Gérard Perrin, qui a fait également un énorme travail pour le transport combiné, et Jean-Claude Brunier. Je vous remercie de les remercier, et également... Nous sommes dans une profession où sans les hommes, rien ne peut se faire. Donc, et ces hommes-là ont particulièrement marqué leur chemin. Nous continuerons aujourd'hui et demain au sein du GNTC à vous accompagner, vous, nos adhérents, vous, nos chargeurs, toutes les personnes qui nous font confiance, de façon à ce que les objectifs de la filière soient véritablement réalisés. Merci.
Merci, et je propose aux intervenants et aux anciens présidents de venir pour une photo de famille. Comme il se doit, la fin d'une assemblée générale, peut-être. Donc, les intervenants, Dominique de Normandie, Gérard Perrin, Jean-Claude Brunier et tous ceux qui ont participé à cette table ronde de venir sur scène pour cette photo de famille. Merci beaucoup. Et je vous appelle un cocktail qui est juste derrière la salle. Un cocktail pour la fin de cette Assemblée générale.